Die Schweiz hat mehr als 4 Sprachen.
So, so, glosso, so, da. Eloé.
Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Simeon Achekpa. Avec d'autres collaborateurs, Sidi Amivi, Senam Kodjo, Sika Naomi, Josué Maoli et Esteban Gagnon.
Oui, d'accord, avions la voix.
Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Oui, d'accord, Miladjo Elo. Oui, d'accord, avions la voix.
Bonsoir Gambie, bonsoir Togo, Gabon, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Congo, Kinshasa, amis du continent noir, bienvenue dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique en Suisse. Et merci de votre fidélité et surtout ceux et celles qui nous écoutent en synchronisation sur Radio d'Enigma aux USA. Cette émission est également rediffusée demain dimanche à 13h, heure de Paris, sur EBN Radio. Merci également à FM Liberté, notre radio partenaire basée à Chicago aux États-Unis. Amis auditeurs, au sommet de cette édition, 27e sommet d'Afrique, du sommet Afrique-France au Mali, des chefs d'État africains, notamment du Togo, du Congo-Brazzaville et de la Guinée-Bissau, affirment leur volonté de s'éterniser au pouvoir. La démocratie dans ces pays est-elle toujours en péril? Sortie massive des pays africains de la zone franc CFA, mythe ou réalité? Et crise post-électorale en Gambie, sous pression militaire de la CDAO, Yahya Jammeh accepte enfin de quitter le pouvoir. Il l'a signifié lors d'une allocution à la télévision nationale en pleine nuit ce 21 janvier. Et pour cette première partie de votre émission panafricaine, nos invités sont justement des panafricains, Burkinabé et un docteur en économie. Il est togolais justement ce docteur en économie. Ses invités seront en ligne dans quelques minutes en direct depuis Vienne et Paris. Et dans la deuxième partie de votre émission, Togo Réforme Politique Cap 2015 dénonce la politique d'enfumage du pouvoir. La nouvelle commission parviendra-t-elle à opérer les réformes? Un membre de la diaspora togolaise est l'invité de votre émission panafricaine. Merci de nous être fidèles. Le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, et la crise post-électorale gambienne sont les sujets brûlants de l'actualité ouest-africaine ces derniers jours. Récemment, chez nos confrères de Jeune Afrique, le Bissau-Guinéen Carlos Lopez, futur ex-secrétaire général adjoint de l'ONU et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, a estimé que le franc CFA est un mécanisme désuet. Dans la même foulée, 4 économistes bien au fait de la problématique ont dirigé la rédaction d'un ouvrage intitulé Sortir l'Afrique de la servitude monétaire. À qui profite le franc CFA? L'ex-ministre économiste togolais Kako Noubukpo déclarait que la parité fixe avec l'euro est une entrave au développement des 14 pays africains de la zone franc CFA. À mes auditeurs, enfin, un front international est en mouvement un peu partout pour dénoncer le franc CFA et qui prône la sortie des États membres. Nous en discutons avec nos invités, notamment Dr Yves Ekua Maïso, économiste, coordonnateur collectif pour la vérité des unes, diaspora et consultant international. Notre deuxième invité est Adama Koulibaly le Burkinabé. Il est porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Ils sont en ligne en direct depuis Vienne et Paris.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique. La voix des sans-voix. La voix des opprimés.
Merci de votre fidélité. Nos invités sont déjà en ligne en direct depuis Vienne et Paris, je le disais. Docteur Yves Ekwe-Amaizo, bonsoir.
Bonsoir, Sylvain.
Et je le disais également, en direct depuis Paris, Adama Koulibaly, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Sylvain, bonsoir Yves Amaizo, et bonsoir aux éditeurs.
Merci également de nous accompagner en direct depuis la région parisienne. Docteur Yves Ekwe-Amaizo, je l'annonçais, vous êtes économiste, coordinateur du collectif pour la vérité des unes, CVU Diaspora, et vous êtes également consultant international. L'histoire nous apprend que Sivanos Olumpio, premier président du Togo, a été assassiné lorsqu'il envisageait opter pour une monnaie nationale autre que le franc du colonie français. Et car, pour lui, une indépendance économique a un grand impact sur l'indépendance politique. Alors, feu Thomas Sankara du Burkina Faso avait des projets de développement à la base pour combattre l'impérialisme. Il fut aussi sauvagement assassiné. On peut citer, entre autres, Modibo Keïta du Mali, Sékou Touré de la Guinée-Conakry. Et justement, tous se sont tombés sous les balles assassines de l'impérialisme, j'allais dire. Et justement, qu'en souci, luttaient pour leur indépendance, surtout une indépendance monétaire. Docteur Yves Ekwe-Amaizo, est-ce à dire que quiconque veut combattre le franc CFA trouvera la France alors sur son chemin?
Écoutez, c'est une question très très profonde. D'abord, je vous remercie pour l'invitation sur Canal K. Je vous précise d'abord que on ne combat pas le franc CFA. On s'en affranchit. C'est une très grande différence et qui fait la différence aussi de la lutte et qui explique tout ce que vous avez dit avant, c'est-à-dire tous ces grands hommes africains qui ont échoué parce qu'ils ont combattu, il fallait s'en affranchir. C'est un premier point. Le deuxième, la France, qui bien sûr avec sa monnaie franc des colonies françaises d'Afrique, qui aujourd'hui évolue avec plusieurs noms, hein. Aujourd'hui on parle plutôt de communauté financière africaine, cette France ne peut pas et ne souhaite pas lâcher le franc CFA, qu'on soit clair dessus. Donc, il faut mettre des agents noirs africains à des postes touchant l'économie, les finances, pour qu'ils continuent soit à maintenir le système en place. Il y a une partie des individus dirigeants africains font ça. Il y en a une autre qui fait semblant de dire qu'ils sont contre le franc CFA, mais en réalité, dès qu'ils vont au conseil d'administration de la zone franc, se taisent et donc avalisent ce qui se passe. Et donc la question est de savoir, toutes ces personnes qui sont mortes pour pouvoir donner une monnaie de souveraineté pour leur pays, est-ce qu'ils ont choisi la mauvaise stratégie et ils sont donc tombés sur des forces plus solides qui les ont mis dans les situations que vous avez décrites? Alors à votre question, oui, la France sera sur la route de toute tentative de s'en affranchir. Donc la question est de savoir pourquoi. Mais la France est membre du conseil d'administration de la zone franc, qui gère les activités monétaires de cette zone, et donc le franc CFA en tête, et la France a le droit de veto sur l'ensemble des décisions. Donc comment voulez-vous, si les deux catégories d'Africains dont je vous ai parlé, ceux qui sont alignés sur la France, ceux qui font semblant de vous dire qu'ils veulent changer mais se taisent quand ils vont au conseil d'administration, sont ceux-là même qui sont dans le conseil d'administration avec la France. Comment voulez-vous que ces gens disent non? Ils ne peuvent pas. Maintenant, qu'on dise non ou qu'on dise oui, faudrait-il encore pouvoir proposer d'autres formes de monnaie, d'autres formes d'activité monétaire, financière et de discipline monétaire qui vont avec. Pendant une période transitoire, on aura l'occasion d'en parler avant de pouvoir s'affranchir de ce franc CFA.
Merci. Adama Koulibaly depuis la région parisienne. Enfin, un front international est en mouvement un peu partout pour dénoncer le franc CFA qui prône la sortie des États membres. Alors, sortie massive de la zone franc CFA, mythe ou réalité selon vous?
Alors, ce combat pour affranchir l'Afrique à tout point de vue n'est pas nouveau. Sauf que cette fois-ci, il semble que ce soit beaucoup mieux organisé et que la détermination soit soit vraiment revenue et qu'elle se soit élargie aussi sur un des pans les plus importants de la liberté des Africains, notamment en tout cas en ce qui concerne les pays qui utilisent en commun ce franc CFA. Parce que, effectivement, si nous n'avons pas de liberté monétaire, de liberté économique, il est difficile d'aller vers les autres espaces de liberté. Donc, je ne pense pas que ce soit un mythe, parce que les Africains ont compris depuis longtemps, depuis bien longtemps, depuis les luttes contre la colonisation, et bien avant ça d'ailleurs, des résistances coloniales, les résistances contre l'occupation coloniale, les résistances contre les excès de la colonisation et contre la colonisation elle-même dans son essence, et aujourd'hui aussi contre, depuis les indépendances, contre ce qu'on appelait le néocolonialisme. Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque la Guinée de Sékou Touré a voté pour son indépendance, contrairement à la plupart des autres pays, alors que la question qui était posée, c'était de savoir, est-ce que vous voulez votre indépendance ou pas? Si on pose la question, ça veut dire qu'on est d'accord pour que les gens décident de prendre leur indépendance, mais ça n'a pas plus du tout. Eh bien, ils ont arraché les impôts, ils ont tout pris, ils sont partis, et par la suite, la Guinée ayant créé sa monnaie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait en sorte de faire de faux billets de la monnaie guinéenne pour venir les déverser. Ils ont saboté l'économie. Pourquoi? Parce que justement, la question monétaire est centrale dans l'espace économique du monde libéral, de l'économie libérale. Donc, si les Africains ont leur propre monnaie, quelle que soit l'importance, la solidité de cette monnaie, ça voudrait dire que les Africains sont réellement libres et qu'ils vont renforcer cette liberté pour eux-mêmes au plan économique et sur tous les autres plans, au plan politique et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, pour revenir à la question qui a été posée de manière précise, je ne pense pas du tout que ce soit un mythe. Parce que la question de la liberté n'est pas une question mythique. C'est une question essentielle pour les peuples.
D'accord.
Et c'est vrai que ça a pris du temps, mais je crois que nous allons y arriver aujourd'hui ou demain.
D'accord.
Ça, c'est inéluctable. Donc, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité.
D'accord.
Maintenant, ça va prendre du temps, parce que c'est très complexe.
Mmh.
On voyait bien comment ça en combien de temps il a fallu lutter pour libérer l'Afrique du Sud du joug de l'apartheid. Et bon, là, ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question de détermination, d'organisation, de solidarité de tous les panafricanistes.
Merci beaucoup. Je le disais que vous êtes le porte-parole contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Et pour commenter et analyser l'actualité et sociopolitique en Afrique, est avec nous également Dr Yves Ekwe Amaizo. Il est économiste et coordinateur du collectif pour la vérité des urnes, CVU Diaspora. Justement, et docteur Yves Kouamaïso, vous êtes économiste. Le franc CFA est-il, selon vous, une entrave à l'indépendance économique, voire politique? Alors, justement, des États membres, comme l'ont dit d'éminentes personnalités économiques africaines.
Bon, il faut d'abord préciser ce qu'est une entrave. Parce que là encore, il ne s'agit pas d'une simple barrière qu'on va décider de ôter sur son chemin. Donc, la véritable question, c'est de savoir si les dirigeants africains, je dis bien les dirigeants africains, j'ai pas parlé des Français, les dirigeants africains veulent s'affranchir du franc CFA. Et si oui, est-ce qu'il existe un consensus sur la solution de transition? Parce que c'est ça l'obstacle ou l'entrave dont vous parlez. Donc la réponse est oui, si c'est à cette question qu'on doit répondre. Et pour ça, il faut d'abord qu'on ait au choix d'une monnaie soit nationale, chacun dans son pays, ou une monnaie commune au niveau de la sous-région. Là encore, le consensus n'est pas clair. Faut-il organiser des structures indispensables à la bonne gouvernance? Je pense aux banques centrales, je pense à toutes les structures intermédiaires. Il faut que l'économie soit transparente, il faut que les données statistiques sur l'économie donnent des chiffres exacts, soient bien gérées, le minimum de déficit, et que certains ne trichent pas en termes d'information. Deuxième élément, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les convergences économiques, est-ce qu'on les respecte? regardez bien les chiffres, vous verrez que beaucoup de pays ne respectent rien du tout. Faut-il, ou plutôt même pas faut-il, on doit arriver à un consensus sur la parité de notre monnaie commune. Vous voyez bien que j'ai éliminé quasiment les monnaies nationales, la monnaie commune, puisqu'on est sur des grands marchés aujourd'hui. Hein, tout le problème de l'Europe aujourd'hui avec Trump, c'est ça. Hein, même l'Union européenne est considérée comme trop petite, donc on préfère aller faire des alliances pour pouvoir aller sur des marchés plus grands. Donc, monnaie commune, mais il doit y avoir trois valeurs. Il faut qu'il serve à payer cette monnaie, il faut qu'il serve d'équivalent général, donc de réserve, et qu'il permette de compter. Et généralement, nous n'avons pas les trois conditions réunies dans la zone actuellement. Encore faut-il, dans un monde international, l'adosser à un panier de monnaie. Et on ne peut pas exclure la monnaie chinoise, puisque nous travaillons essentiellement avec la Chine aujourd'hui. Est-ce qu'on a un consensus sur ces histoires? Bon, maintenant, cette monnaie, elle doit pouvoir cohabiter pendant un certain temps, que j'appelle la période de transition, entre cette monnaie locale et cette monnaie franc CFA. On ne doit pas, au moment où nous passons en transition, les opposer. Puisque la monnaie a ce qu'on appelle un pouvoir libératoire. L'État, les États d'une zone X vont décider aujourd'hui la monnaie X, franc CFA, n'a plus cours dans notre espace géographique. Mais ça ne peut se dire que si nous avons déjà mis en place quelque chose d'autre qui fonctionne. Quelque chose sur lequel nous nous sommes mis d'accord, que nous avons des règles pour faire des rapports et donc rendre des comptes sur comment nous gérons. Et enfin, il faut un dernier point très important. Vous ne pouvez pas créer une monnaie sans savoir qu'il y a des gens qui ne respecteront jamais rien dans une zone. Donc ces gens qui font des déficits, ces pays qui font des déficits, il faut bien quelqu'un paye ou quelqu'un les couvre. On appelle ça le payeur en dernier ressort. C'est prévu, le Fonds monétaire africain. Mais tout ça n'arrive pas à avancer aujourd'hui. On signe ceci, on signe cela, mais on ne voit toujours pas le jour. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir, entre nous, si quelqu'un a des problèmes, soit passagers, soit de longue durée, de déficit, qu'on puisse l'aider, c'est-à-dire lui prêter de l'argent et lui dire d'arrêter, de mal gérer, pour qu'il puisse sortir de cette difficulté et redevenir un membre à part entière qui soutient l'ensemble de la zone. Donc, je résume tout ça. Il s'agit d'une discipline monétaire. Donc la question est de savoir, est-ce que nos dirigeants africains, dans la zone où nous sommes, Afrique de l'Ouest, ou centrale, ou d'autres, est-ce qu'ils sont disciplinés sur le plan monétaire? Et il y a des critères pour ça. On n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais il y a deux critères très intéressants. Tout simplement, la dette. Est-ce que la dette, quand nous nous engageons pour endetter un pays, est-ce qu'il vaut mieux faire un aéroport au Togo ou de faire 7 ou 8 hôpitaux pour soigner les populations? Voici un choix politique. Qu'est-ce qui a été décidé? Un aéroport. Mais est-ce que l'aéroport est rentable? Non. Est-ce que l'argent a été fait par le Togo? Non, c'est la Chine. Est-ce que l'argent qui rentre au Togo? Non, rentre au Chinois. À quoi ça nous sert? Exactement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'avions? Pas beaucoup. Donc vous voyez bien que si on avait fait 8 hôpitaux, d'accord, c'était plus intéressant.
D'accord.
Mais qui? Et ça a une conséquence sur la monnaie, puisque ce déficit-là, mais ça va venir augmenter la dette du Togo. D'ailleurs, c'est le cas. Nous sommes à 75 et des poussières pour cent. Et donc, avons largement dépassé les 60% demandés dans la zone UMOA.
D'accord.
Voici quelques exemples rapidement pour vous montrer que quand les gens disent qu'il y a une barrière, ce n'est pas juste un petit quelque chose sur votre chemin que vous mettez de côté et vous avancez. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, comme l'a dit M. Adama tout à l'heure, sur lequel il faut des spécialistes. Des spécialistes du domaine, pas des spécialistes dans d'autres domaines, des spécialistes de ce domaine qui sont engagés, bien sûr, pour leur pays et leur population, et non pas des dirigeants qui sont souvent engagés d'abord pour servir l'étranger et acceptent cette servitude volontaire dont vous avez parlé.
D'accord. Raison pour laquelle, des manifestations s'intensifient ces derniers temps, et des mobilisations un peu partout, comme l'a dit Adama Koulibaly, ça va mettre long, mais jusqu'à quand, Adama Koulibaly? Et alors, vous êtes panafricain, et vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas une mythe, c'est plutôt une réalité. Alors, pour traduire cette réalité, comment combattre quand même le Fonds CFA? Est-ce que nous, en tant que panafricains, est-ce que les chefs d'État, déjà, le président tchadien, il a émis l'idée, est-ce qu'il a un soutien des autres chefs d'État? Comment est-ce que vous voyez que nous devons mener ce combat, Adama Koulibaly?
Alors, il faut mener ce combat sur plusieurs fronts simultanément. De toutes les façons, comme le disait tout à l'heure notre ami Maïso,
docteur Yves Maïso, ouais.
Docteur, voilà, docteur Yves Maïso, et il y a que certains de nos dirigeants travaillent pour des intérêts étrangers à l'Afrique. Donc de tels dirigeants, il faut faire en sorte de les isoler. Il faut qu'il y ait davantage de dirigeants qui comprennent que leur salut se trouve auprès de leur peuple en réalité, qu'ils soient suffisamment courageux pour prendre des décisions qui puissent aller dans le sens de l'indépendance réelle de l'Afrique, en commençant par l'indépendance naturellement économique, hein, puisque nous parlons du CFA, et nous parlons de monnaie ici, et je pense que pour que nous puissions en arriver à une telle situation qui permettrait d'avoir une masse critique d'État qui décide d'aller dans une telle direction, il faut qu'il y ait une mobilisation populaire, qu'il y ait un travail d'information, de sensibilisation des populations, des organisations, des démocrates et africains, et à travers toutes les structures. C'est la première fois que dans plusieurs capitales à la fois, y compris en Europe, et dans plusieurs capitales africaines, le même jour, il y a des conférences, des manifestations pour dénoncer la mainmise étrangère sur l'économie de 14 pays africains, on pourrait même dire 15 pays africains, qui utilisent une monnaie qui leur est étrangère en réalité. Bon, maintenant, il y a une réalité qui a été dite tout à l'heure, aussi par Yves Maïso, c'est qu'il faut des spécialistes. Il faut des gens qui sachent de quoi ils parlent. Pourquoi le franc CFA est-il toujours la monnaie qui est en cours dans cette zone-là? Parce que certainement, certains de nos responsables, certains de nos cadres techniques aussi, ont été plus ou moins infantilisés, ou alors pas seulement infantilisés, mais ont été instrumentalisés. Ils ont été formés seulement pour pouvoir gérer ce qui arrange l'utilisation de ce franc CFA dans le cadre de cette économie qui nous a été imposée, qui a totalement déstructuré l'économie africaine, qui utilisait à un moment donné dans certaines zones le kori ou le troc. Et d'ailleurs, il est intéressant de constater qu'aujourd'hui, même à Paris ou dans d'autres zones du monde dit développées, il y a que le troc revient en force. Et il y a aussi des monnaies alternatives, c'est-à-dire que les gens comprennent qu'il faut organiser l'économie et toutes les activités humaines au profit des humains, et non pas au profit d'une minorité qui cherche à aller faire des plans sur les comètes, qui cherche à faire des voyages dans l'espace, alors que certains n'ont même pas le minimum pour vivre. Mmh. Donc le problème, il est là. Donc il y a nos spécialistes, où certains de nos dirigeants ont été instrumentalisés, ils sont spécialistes pour gérer ce qui existe. Mais dans le même temps, ils sont suffisamment bien formés aussi pour pouvoir proposer autre chose. Encore faut-il qu'on puisse leur donner l'occasion et la possibilité de pouvoir réfléchir et proposer autre chose. S'il y a un vrai plan, une vraie pression qui est faite sur les dirigeants pour qu'un plan émerge pour pouvoir passer à autre chose, et les Africains sont tout à fait capables de le faire.
D'accord.
Et d'ailleurs en coopération avec les Français notamment, et d'autres d'ailleurs, mais dans l'intérêt des Africains, on peut très bien aller vers une monnaie. À partir du moment où nous avons l'habitude d'utiliser en commun une même monnaie depuis la colonisation, nous sommes tout à fait capables de créer une monnaie commune dans ce même espace.
D'accord.
Et qui sera valable partout ailleurs.
On va
Donc
voir,
je pense que c'est une question d'organisation dans ce combat-là. Chacun a un rôle à jouer. Les dirigeants ont un rôle à jouer. Ils ont une responsabilité vis-à-vis de leur peuple. Les panafricanistes, quels qu'ils soient, ont aussi un rôle à jouer. Les spécialistes aussi, les économistes, les philosophes, tous ont un rôle à jouer.
D'accord.
Pour pouvoir expliquer aux populations l'importance de s'organiser et de se mobiliser pour faire pression sur nos États.
D'accord.
Et obliger également la France et l'Occident à accepter que nous puissions aller vers une véritable indépendance monétaire
et économique. Donc, en gros, mettre la pression. Donc, nous parlons, nous voulons sortir du franc CFA, et voilà, franc des colonies d'Afrique. Justement, nous avons un économiste dans cette émission, docteur Yves Ekwe-Amaizo, et nous parlons, le mot revient tout le temps, vous l'avez dit vous-même, monsieur Adama Koulibaly vient de le dire, une monnaie commune. Alors, vous, en tant qu'économiste, les pays de la zone franc CFA sont-ils vraiment prêts pour mettre en circulation leur propre monnaie? Tout récemment, le président sénégalais Macky Sall remettait en cause cette sortie collective de la zone franc CFA et également l'abandon du franc CFA. Yves Amaizo, que pensez-vous de la position de ce président Macky Sall?
Il y a deux questions que vous avez posées. Est-ce que les pays de la zone franc sont vraiment prêts pour mettre en circulation leur propre monnaie? La réponse aujourd'hui est non.
D'accord.
La monnaie franc CFA est produite à Chamalières, le village de Giscard d'Estaing. Donc vous comprenez que quand Giscard d'Estaing décide de faire de nouveaux billets, des nouvelles pièces, pour remplacer les anciennes, on ne sait pas quand et à quoi il a adossé. Donc vous voyez bien que quand on parle d'inflation en Afrique, il y a un gros problème. S'agit-il de l'inflation africaine ou l'inflation de Giscard d'Estaing dans son village là-bas? Bon, mais Adama a dit tout à l'heure, mais la monnaie, il faut la produire. Si nous n'avons même pas une imprimerie pour faire une monnaie que n'importe quel bandit va pouvoir fabriquer et circuler, mais qui sommes-nous? Qui sont ces dirigeants africains qui ne sont pas capables de prendre un bout de papier? Est-ce que moi j'ai fait l'histoire monétaire. Est-ce que vous saviez qu'au Sénégal, dans les années 1800, juste avant la fin de l'esclavage, la métropole française, colonie, avait des difficultés pour fournir justement des billets et des pièces
Docteur Yves Ekwe-Amaizo, au même moment, on veut sortir du franc CFA, mais en même temps, on n'est pas prêt pour faire circuler notre propre monnaie. Donc, c'est un peu compliqué.
Je vous dis que ce n'est pas quelque chose de compliqué. En 1800 et quelques, 35, 45 et autres, on prenait des jeux de cartes. Vous savez, jouer aux cartes, des jeux de cartes, pique, trèfle, cœur, etc. On les coupait en 3 ou 4, avec un tampon du gouverneur local, et ça avait telle ou telle ou telle valeur, et ça circulait. Et ça permettait de payer. Donc, ce n'est pas un problème de trouver une imprimerie et de le faire. J'essaie de montrer, parce que beaucoup de gens perdent leur temps en croient que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Il faut seulement décider. Ça, c'est pour votre première partie de votre question. Quant au président Macky Sall, il y a un gros problème sur ce président. Pour ce qui est du franc CFA, voilà un président que j'apprécie beaucoup sur beaucoup de dossiers, mais là, sur le franc CFA, la question de la servitude monétaire de manière volontaire se pose. Est-ce qu'il est le président des Sénégalais qui veulent le franc CFA et le conserver? Ou il est le président des Sénégalais qui ne veulent pas? Parce que c'est dans son pays qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent.
Il n'y a pas que Macky Sall. Je pense que le président ivoirien Alassane Ouattara soutenait quand même que pour le moment, l'Afrique, du moins, de la zone franc CFA n'est pas encore prête pour quand même sortir de la zone franc CFA.
Du Tchad, qui a fait beaucoup de bruit, qui d'ailleurs ne sait toujours pas que le franc CFA est un franc qui appartient à la France. Il a cru que c'était quelque chose qui appartenait à l'Afrique. Vous voyez, il y a tellement d'incompréhension, comme on disait tout à l'heure, qu'ils cherchent au moins des spécialistes. On connaît plein de spécialistes économistes tchadiens. Est-ce qu'ils les écoutent? Voilà le premier problème. Donc, pour revenir à votre question, ces dirigeants ont un gros problème avec la position de la France. Quand ils vont dans ce conseil d'administration de la zone franc, qui ne couvre pas que le franc CFA, les gouverneurs, la banque centrale, etc., c'est là-bas que la décision se prend. Si vous y allez avec d'abord une position commune, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous y allez avec une détermination que les peuples vous ont donnée et sont en train de vous donner, ce n'est pas possible qu'un individu qui représente la France, en fait ils sont deux au Conseil, puisse avoir la majorité sur les autres. Donc la France a une position de veto, pour ne pas dire de maître à esclave. Donc la question est de savoir, est-ce que les dirigeants africains qui sont assis ou représentés dans la conseil d'administration de la zone franc sont des esclaves. Parce qu'on parle bien de servitude monétaire. La question doit être précisée. Et il faut poser la question au chef d'État ou à leur ministre des Finances. Parce que s'ils disent à chacun, soit ils ne savent pas de quoi on parle, ou bien carrément, ils ne voient pas le rapport, comme c'est la mode au Togo aujourd'hui, alors ça pose un problème de fond. Ou bien ils ne savent rien, auquel cas ils laissent la gestion à des gens compétents pour gérer. Ou ils sont dépassés, ce qui semble être le cas aussi, Pourtant, ils restent nationalistes, ils restent des gens qui patriotes, alors qu'ils laissent quelqu'un d'autre gérer cette histoire, puisqu'ils ne comprennent rien. Bon, maintenant, il y a un autre problème. Est-ce que c'est le fait même de continuer à faire ce système dans lequel ils sont rétribués, c'est-à-dire qu'ils récupèrent 5, 10, 15, 20, 30% ou plus sur le dos des Africains, qui fait qu'ils ont intérêt à ce que le système perdure? Et là, on change de dimension. On n'est plus dans le franc CFA. On est dans le vol. On est dans l'usurpation de la richesse des Africains. On est dans l'exploitation des Africains dirigeants, pas sur les Africains qu'ils croient diriger, souvent avec la contre-vérité des urnes. Donc, qu'est-ce qui se passe? S'ils se mettent alors à prendre des décisions erronées, à faire des nouveaux crédits, qui vont dans des structures qui ne rapportent pas de l'argent, qui ne sont ni l'infrastructure, ni la santé, ni l'éducation, ni le logement, etc. Comment voulez-vous qu'on crée de la valeur ajoutée et des richesses supplémentaires pour pouvoir compenser? Donc, notre endettement s'envole, ce qui est d'ailleurs le cas du Togo aujourd'hui. Au final, nous sommes de plus en plus endettés. Au final, ben, nous sommes obligés de nous taire au conseil d'administration. Au final, nous conservons le franc CFA. Donc, la question, sincèrement, avant d'être monétaire, elle reste d'abord fondamentalement politique. Il faut que les populations qui sont en train de se lever, ils prennent conscience de plus en plus. Merci pour tous ceux qui, justement, ici et là, font des conférences, expliquent, hein, le professeur Babou, un grand ami, il doit continuer. Savez-vous qu'il a parlé avec le monsieur Babou? Il a même parlé devant les militaires ivoiriens. Comment le franc CFA fonctionnait? Comment certains d'entre eux, justement, avec les bakchis ici et là, contribuaient à préserver ce franc CFA? Et beaucoup ont changé. Mais vous avez vu le résultat, on a liquidé Babou. Donc, le problème est beaucoup plus profond. Les Africains doivent comprendre qu'on ne s'attaque pas à un éléphant quand on est une petite gazelle ou voire même une souris. On s'organise d'abord pour savoir comment on fait tomber un éléphant.
C'est clair.
Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire tomber un éléphant, vous pouvez toujours circuler. Parce qu'un éléphant ne va pas aussi vite et ne peut pas savoir où va se cacher une souris. Donc, on s'organise, on est discipliné monétairement et on fait quelque chose en parallèle. Tous les gens qui se sont débrouillés avaient en fait deux monnaies. Regardez les Chinois. Ils avaient le yuan et le renminbi. Regardez le Nigeria, il y avait deux cours qui circulent. Il y a toujours deux monnaies qui circulent en parallèle.
D'accord.
Et chacun va vous dire la monnaie noire, le ceci, cela, c'est des histoires. C'est la monnaie qu'on accepte au niveau local.
D'accord.
Si on l'accepte, alors bien sûr, on protège l'économie locale. Et d'ailleurs, entre parenthèses, sans cette protection, vous n'aurez pas l'industrialisation. Parce que avec le libre-échange, on est forcé de prendre toujours les produits qui viennent d'ailleurs. Moins chers, souvent de mauvaise qualité d'ailleurs. Voilà, c'est un problème vraiment de fond. Mais il faut qu'il y ait des débats. Il faut qu'on s'explique. Mais quand on vous venait dans votre pays, on vous coupe la tête. Quand on vous empêche de parler, quand on va casser votre maison, comme ça se passe au Togo régulièrement, mais qu'est-ce que vous voulez qu'un intellectuel dise? Mais l'intellectuel, il sait c'est que clair. Réfléchir, hein.
D'accord.
Il ne peut que conseiller.
D'accord.
Donc, ce sont des problèmes de fond. Et l'essentiel revient à ce que vous avez dit. Est-ce que ce président dont vous avez parlé du Sénégal, quand il dit qu'il faut préserver le franc CFA, posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il propose concrètement? C'est d'accord. Ça son job. C'est de nous dire qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse de manière transitoire. Il y a eu 4 rapports qui étaient faits par les économistes de l'Union africaine dont je suis membre. 4 rapports qui ont expliqué de long en large, de haut en bas, comment on doit sortir du franc CFA. Qui c'est qui l'a lu? Qui c'est qui le met en œuvre? Ils sont tous membres de cette organisation. Vous voyez le problème de fond? C'est qu'on est toujours en train de croire qu'il n'y a pas de solution. Non! Les experts africains, nationalistes, panafricains, ont déjà plusieurs solutions. On n'a pas choisi une, on en a plusieurs.
Donc,
il suffit de choisir entre telles, parce que chacune des solutions a des avantages et des inconvénients.
Donc c'est une solution politique alors?
Bon, appelez ça comme vous voulez. Les pressions politiques n'existent pas quand un peuple se lève. Adama l'a dit tout à l'heure. Ça n'existe pas. La révolution française en 1789, c'était contre les injustices. Parce que les gens se sont levés. Le bourgeois, le pauvre se sont mis d'accord pour chasser
d'accord,
le roi.
D'accord. Avant de passer à d'autres informations, puisque vous êtes là également pour commenter, analyser la situation sociopolitique en Afrique, justement cette semaine, Adama Koulibaly, le président sénégalais Macky Sall, remettait en cause il y a quelques semaines la sortie collective de la zone franc CFA et l'abandon du franc CFA. Alors que pensez-vous de sa position également de ce que pense également et le président ivoirien et Alassane Ouattara?
Alors, rappelez-vous que les deux personnes, les deux présidents qui ont rendu visite au président Sarkozy tout de suite après sa défaite, avant qu'il quitte le pouvoir, c'était le président Ouattara et Macky Sall. Donc leur proximité avec la France n'est plus à démontrer. Et ensuite, quand on regarde leur parcours, ce sont des personnes qui ont évolué dans un système pour ce qui concerne le président Ouattara monétaire international, au sein duquel la France a un rôle important à jouer, et la France s'est considérablement appuyée sur son précaré africain et sur, au plan politique, au plan diplomatique et au plan économique également. Donc ça, ce sont des gens qui ont coché volontairement, ou en tout cas par le fait de l'histoire, moi je pense volontairement, hein, contribué à ça. Maintenant, c'était la réalité, on peut pas leur en vouloir pour ça, mais là où on peut s'interroger, c'est de savoir pourquoi, après qu'ils aient atteint un tel niveau de responsabilité, pourquoi n'écoutent-ils pas suffisamment les experts africains, pourquoi n'écoutent-ils pas suffisamment les complaintes de leur peuple pour pouvoir réfléchir à une autre façon de faire. Pour eux, le problème se trouve certainement ailleurs. Puisqu'on constate qu'il y a de l'argent, quand il y a un problème, tout de suite, on sort un peu d'argent pour certains. Parce que cette misère des Africains, elle n'est pas une réalité pour tous les Africains. Donc il y a des gens qui sont aveuglés par les fastes du pouvoir, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très curieux. Puisque l'un comme l'autre sont des spécialistes de ce système, politique et économique, qui mondialisait, mais qui était mondialisé depuis longtemps pour la France et ses colonies, hein. Donc c'est même pas mondialisé, mais à sens unique, hein, puisque c'est la France qui mène le jeu depuis toujours, depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant. Alors, je pense que il faudrait que l'un comme l'autre puisse s'expliquer davantage pour qu'on puisse comprendre le fond de leur pensée et les propositions qui sont faites pour pouvoir redonner à l'Afrique une véritable croissance économique, mais qui soit partagée véritablement par tous les Africains et qui bénéficie à tous les Africains. Moi, je ne crois pas du tout qu'ils soient l'un comme l'autre dans cette dynamique-là. Moi, je pense que ce sont des gestionnaires d'un système qui se satisfont de la gestion de ce système, qui sont tout à fait respectables, parce qu'ils ont été élus, hein, il y a des problèmes, nulle part, partout il y a des hommes, où il y a la gestion des hommes, il y a des problèmes, la différence se trouve dans la manière de gérer ces problèmes en faveur de ceux qui vous ont fait confiance, et de ceux qui n'ont pas voté pour vous aussi, parce qu'une fois élu, vous devez représenter tout le monde, tout le peuple. Alors, donc je pense donc que ce qui est important pour nous, nous ne pouvons pas répondre à leur place, ce qui est important, c'est qu'on se dise qu'il va y avoir des résistances.
C'est clair.
C'est-à-dire que les chefs d'État ne sont pas d'accord. Je disais tantôt que certains, à mon sens, ont été instrumentalisés, quel que soit leur rôle. D'ailleurs, on voit des gens, des Africains, qui n'ont eux-mêmes ne sont pas, des dirigeants, ils ne sont pas des dirigeants, mais qui sont en train de... Ils ne sont pas des dirigeants, hein, mais ils sont en train de... ils croient, ils sont misérables, hein, mais ils vont vous dire...
émission radio, oui.
Oui, ils vont vous dire, mais écoutez, si on sort du franc CFA, ben on est mort. On est mort. Et là, franchement, la bataille idéologique et mentale, elle a été gagnée par la colonisation, par les colons, aujourd'hui donc par les capitalistes qui gèrent notre économie. Donc ce qui fait que nos dirigeants, comme certains de nos experts, et comme certains de nos populations, eux-mêmes sont aussi dans un état où ils pensent que sans les francs CFA, ben, notre économie, elle va être complètement délabrée. Donc il y a cette bataille des mentalités, cette bataille idéologique que nous devons gagner pour comprendre que notre dignité ne se négocie pas et ne se mesure pas non plus à l'aune de notre servitude ou de notre servitude vis-à-vis de nos maîtres. Il n'y a pas de maître, nous sommes nos propres maîtres. Et nous devons parler d'égal à égal avec les autres.
Exactement.
Je pense que ce que ces dirigeants ont dit, ça les engage. Mais maintenant, ce que les peuples veulent, ça les regarde aussi. D'accord. Mais les peuples peuvent vouloir des choses si les représentants de ces peuples ne s'organisent pas. Si le peuple même ne manifeste pas sa révolte, mmh. ça ne marchera jamais.
D'accord.
Et c'est ça,
On va continuer, mais bien avant cela, on va marquer une pause.
La zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons. Message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde.
Merci de votre fidélité sur le 3xw.canalk.ch et vont commenter et analyser l'actualité politique en Afrique cette semaine. Nous avons Dr Yves Ekwe Amaiso, économiste, coordinateur du collectif pour la vérité des unes. Et CVU Diaspora, il est également consultant international. Notre invité depuis la région parisienne est Adama Koulibaly. Il est porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Justement, docteur Yves Ekwe Amaiso, outre le débat suscité par le franc CFA, l'actualité est également ce qui s'est passé en Gambie. Et cela tient également les Africains en haleine depuis des semaines. Adama Barrow vient de prêter serment dans l'ambassade gambienne à Dakar. Investir, c'est la question qui se pose, Dr Yves Ekwe Amaiso. Investir un président dans une ambassade, donc à l'étranger, est-il légal selon vous?
La réponse est oui. Vous savez qu'une ambassade, c'est une extension du territoire national. Quand vous êtes dans l'ambassade du Togo à Paris, vous êtes au Togo. Quand vous êtes dans l'ambassade des États-Unis au Togo, vous êtes aux États-Unis. Donc, c'est légal. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi certains opposants vont se réfugier dans les ambassades. Dès lors qu'ils rentrent sur l'espace de l'ambassade, ils sont dans un autre pays. Ce n'est pas au niveau seulement en Afrique. Regardez les Snowden. Hein, ils sont en Russie, ils sont dans tel ou tel endroit, ils sont dans des ambassades. Donc, c'est légal.
D'accord. Et Adama Koulibaly, pour une fois, la CEDEAO a fait montre d'une constance dans une ligne politique plutôt respectable. Le summum fut l'introduction et l'obtention de l'onction de l'ONU sur une résolution de l'organisation sous-régionale, car justement le Conseil de sécurité. Alors, les forces ouest-africaines se sont mobilisées et ont pénétré le territoire gambien, même s'il y a eu un repli momentané, et pour installer le nouveau pouvoir légitime de Adama Barrow. Adama Koulibaly, que vous inspire l'attitude de la CEDEAO dans la gestion gambienne?
Le comportement, enfin, la réaction de la CEDEAO, et qui a suivi en fait cette fois-ci la voie, enfin pas cette fois-ci, mais qui a été au-delà des injonctions et qui a mené de front deux attitudes pour pouvoir résoudre ce problème: la négociation qui a été privilégiée, mais également aussi l'usage et les pressions militaires. Donc l'usage de la force était vraiment sur la table, et puisque bon, d'après les informations, les troupes sénégalaises, donc qui représentent la CDAO, étaient rentrées sur le territoire gambien, avec aussi la présence en appui, en tout cas la présence des forces militaires nigériennes qui venaient en appui, qui étaient prêtes à intervenir. Donc je pense que c'est ainsi que l'Afrique doit pouvoir continuer à gérer ses actions sur tous les plans. Et surtout lorsque il y a un déni de démocratie ou un déni de liberté quelconque qui pénalise les peuples, et il faut qu'il y ait la même voie, le même comportement, la même attitude qui soit observée pour tous les pays africains. Il ne faut pas qu'il y ait du deux poids, deux mesures en fonction des circonstances. Moi, je salue réellement l'action de la CDAO cette fois-ci qui a pu aboutir à une solution, si toutefois il n'y a pas de volte-face de dernière minute encore, il n'y a jamais. Mm. Mais en tout cas, la CDAO a largement contribué à dénouer cette crise de belle manière. Et elle n'a pas eu besoin d'aller faire appel à des Occidentaux. Elle a utilisé quand même aussi les instruments internationaux à travers l'ONU pour pouvoir obtenir quand même l'aval de la communauté, ce qu'on appelle la communauté internationale, mais c'est la CDAO, c'est les Africains qui ont réglé ce problème, et ça, il faut le saluer et espérer que cela va se poursuivre et que ça sera un signal et pour l'ensemble des dictateurs aux petits pieds qui sont à gauche et à droite en Afrique.
Docteur Yves Ekwea Maizo, des médiations se sont succédées, multipliées pour offrir une sortie honorable à Yahya Jammeh, et les bons office de la Mauritanie et de la Guinée-Conakry réputée proche de Jammeh ont essuyé l'insensibilité de Jammeh qui a finalement accepté hier de quitter le pouvoir. Alors, l'option militaire est-elle ultime et quelle est votre analyse sur la gestion de la crise gambienne par la CDAO?
Vous savez que la CDAO dépend de trois choses. D'abord de son financement qui se fait actuellement par un pourcentage qui est pris sur les importations. C'est pour ça qu'on a en gros plus de problèmes financiers avec la CDAO. On a voulu exporter ça au niveau de l'Union africaine. Beaucoup de bagarres, mais apparemment ils vont voter ça en janvier cette année. Très important, parce que si une structure n'est pas indépendante financièrement, elle va dépendre des allées et venues de chacun des chefs d'État, ce qu'on a eu sous Obasanjo ou autres, qui sont venus faire exactement le contraire de tout ce que les peuples veulent. Bon, on a maintenant un monsieur Bouhari qui est beaucoup plus orienté pour réduire et Boko Haram et la corruption, et donc soutient tout ce qui est vérité des urnes. Il a fait des efforts au départ, il s'est un peu retiré, d'autres sont venus. Ce qu'il faut dire de la CDAO aujourd'hui, c'est que la CDAO elle-même, si elle ne faisait rien, c'est qu'elle se tue elle-même, elle n'existe déjà pas. Elle n'arrive pas à imposer une décision au niveau sous-régional, donc si elle n'avait rien fait dans cette décision-là, et elle était vraiment, elle ne servait plus à rien. Et vous savez pourquoi? Parce que les décisions au niveau de la CDAO continuent à se prendre au niveau de l'unanimité. Tous les pays, on enlève maintenant le Mauritanie qui a quitté, ils sont 15, doivent dire oui ou non. Qu'est-ce qui se passe quand il y a l'unanimité? Il suffit qu'un dise non, il bloque tout le monde. Et vous savez que le Togo, et justement la Gambie, avaient refusé quand on avait demandé qu'il n'y ait que deux mandats et que le chef d'État doit rentrer chez lui. Le Togo et la Gambie ont dit non. Donc voici comment une évolution se fait. Donc s'ils avaient auparavant, au niveau institutionnel, mis un système de majorité décisionnelle, l'histoire même de Gambie dont vous parlez aurait été beaucoup plus rapide. On n'y aura pas besoin de concertation à gauche et à droite. La décision de la majorité voulait que ce monsieur parte, il a perdu les élections, il l'a reconnu. Son seul problème, c'était trois choses. Lui voulait partir, les militaires ont dit « tu vas où ?» Et si tu vas où, nous on mange quoi? Il faut être concret dans cette histoire. Et donc, si tu pars, alors c'est ton pied, mon pied. Où nous restons, tu restes. Et voilà comment l'histoire a commencé. Deux, ces Occidentaux qui font toujours du bruit. C'est eux qui sont allés dire dans les oreilles de l'opposant, écoutez, ce monsieur-là, attrapez-le, mettez-le à la cour pénale, etc. Parce qu'il a justement dit non à cette cour pénale. Cour pénale où on ne juge essentiellement que les Africains d'ailleurs. On ne sait même pas pourquoi un Africain fait une cour pour qu'il se fasse juger par des étrangers. Voilà encore une aberration des Africains. Mais c'est pas grave. Donc, tous ces éléments étaient une sorte de vengeance. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés bloqués. Parce que lequel de ces chefs d'État va dire qu'il est propre? Lequel va dire ça à un Yahya Jammeh? On ne dit pas de défendre ce monsieur, mais lequel va dire ça? Ils ont tous, plus ou moins, pas respecté la vérité des urnes. Tous. Donc, le problème était... Et Yahya Jammeh avait menacé de mettre ça sur la place publique. Donc il fallait trouver un arrangement. Donc pour bien répondre à votre question, la notion de l'armée, l'intervention, l'ingérence, c'est en dernier ressort. C'est quand on n'a aucune possibilité. En fait, Jammeh dit, il ne peut pas aller manger du McDonald's ou des choses des Occidentaux, là. Il mange au pays. Donc le monsieur ne veut pas quitter son pays. Voilà le fond du problème. Il va falloir qu'il trouve une solution, parce qu'on ne peut pas le laisser là, avec sa garde rapprochée, où il va tirer sur tout ce qui bouge quelques années après. D'ailleurs, il est venu par un coup d'État, non? Donc voilà le fond du problème.
D'accord.
Donc tout ça, c'est qu'on a laissé traîner ces problèmes. Ça se règle au niveau institutionnel. L'Union africaine l'avait dit. Vous n'avez pas respecté la décision et de la population, je vous exclus. D'ailleurs, le 19 janvier, Madame Zuma a pris sa décision en toute honneur, qui a d'ailleurs déclenché. Alors l'ONU, on en a parlé tout à l'heure, mais l'ONU ne vient que renforcer ce que nous, Africains, décidons. Donc il faut que la CEDEAO décide que ce monsieur doit partir, il faut que l'Union africaine, Conseil de paix et sécurité, décide, d'accord. Et les deux font une demande aux Nations Unies, et le Conseil de sécurité des Nations Unies avalise, et l'ensemble fait pression, et généralement, ces gens-là doivent partir.
D'accord.
Mais attention, partir veut dire quoi aussi? Tous les gens qui mangeaient dans le pays, tous les gens qui avaient des mines d'or, de diamants, etc., tous les gens qui dirigent les hôtels de tourisme là-bas et qui se faisaient des millions sur le dos de la population et payaient même les populations. Mais attention, ce qui rentrait leurs bénéfices sans payer quoi que ce soit dans le pays, c'est tout ça qui va changer. C'est pas une soif d'un individu. Ce sont ces gens qui finançaient aussi le Jammeh. Attention, il ne faut pas mettre ça sur un seul individu. C'est tout un réseau. Adama l'a dit tout à l'heure, il y a des gens, une oligarchie là, qui mangent tout et laissent les autres mourir de leur propre mort. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est dommage.
Donc attendez, il fallait laisser le temps pour qu'ils puissent arranger ces choses. Ne croyez pas que ça se fait en l'air. Donc chacun vient défendre son petite histoire. Tous les chefs d'État ont défilé là-bas. Parce qu'ils ont tous des intérêts, non? Donc chacun vient défiler là-bas. Voilà le fond du problème. Donc l'histoire militaire, c'est toujours en dernier ressort. D'ailleurs, les militaires l'avaient dit au début, les militaires gambiens ont dit, nous n'allons pas tirer si jamais la force de la CEDEAO vient. D'accord. C'était clair, non?
C'était clair.
Eh bien, donc, il y a bien autre chose.
D'accord.
Alors, n'oublions pas, il y a des gens derrière. Que fait le Qatar? Pourquoi on dit au monsieur d'aller au Qatar? Pourquoi le Qatar, par ses systèmes privés, finance Boko Haram, finance Al-Qaïda? Mais ça, on ne le dit pas en Afrique. N'oubliez pas que ce pays gambie s'appelle la République islamique. Islamique de Gambie, que Yahya Jammeh, à force d'avoir des pressions occidentales, est passé de l'autre côté. Mais attends, de l'autre côté, il faut faire la prière 5 fois par jour, il faut accepter les règles là-bas aussi, hein. Attention,
c'est clair.
Là aussi, il y a des problèmes de fond. Que fait exactement le Qatar dans cette histoire?
En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Dernier point rapidement à discuter avec vous dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique, 27e sommet. Afrique-France au Mali, justement en répondant à une question d'un journaliste français sur leur règne, trop long au pouvoir, contrairement à François Hollande, et qui a finalement décidé de partir après 5 ans de gouvernance en France. 3 chefs d'État africains, par leur réponse, affirment leur volonté de s'éterniser au pouvoir. Adama Koulibaly, la démocratie peine-t-elle toujours à être stable dans ces pays-là, notamment parlant du Togo, et de la Guinée-Bissau, et justement de Congo-Brazzaville, Adama Koulibaly.
Si j'ai bien compris la question, je veux dire que je pense que nous ne sommes pas, ces gens ne sont pas sur la même planète. Évidemment, il y a un de ces présidents, je pense que c'est le président bissau-guinéen, qui lui dit que c'est le peuple qui choisit. Effectivement, c'est le peuple qui choisit les dirigeants. Heureusement d'ailleurs, hein. Et que donc, ce qu'il voulait dire, ben ça regarde les Français. Si François Hollande, ben il veut pas se présenter, c'est son problème. Alors, on se souvient de ce qui s'est passé il y a pas si longtemps que cela au Congo, lorsque le même François Hollande avait dit face au tollé soulevé par les velléités qui se sont de toute façon concrétisées par la suite, les velléités de Denis Sassou Nguesso, de modifier la constitution pour pouvoir se représenter. Alors, même François Hollande avait dit exactement ce que le président bissau-guinéen vient de dire, c'est-à-dire, il a le droit de consulter son peuple. C'est la même chose. Mais quand il s'agissait de lui-même face à son peuple qui ne voulait pas, il a pris la décision de ne pas être candidat. Mais pourquoi a-t-il voulu, face au tollé qui se passe là-bas, qui s'est passé en Congo, dire, oui, ils ont le droit de choisir qui ils veulent. Donc, c'est-à-dire qu'ils considèrent que en Afrique, ce n'est pas la même chose, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Évidemment, face à ça, la question est posée aux Africains. C'est aux élites africaines et aux populations africaines de savoir si elles veulent continuer à rester dans cette situation. C'est pourquoi je disais tantôt, quand on parlait de la CEDEAO, et j'espère que ce qui se passe en Gambie, ça ne sera pas géométrie variable quand il s'agira des autres pays. Parce que c'est vrai que il faut être réaliste, il y a des mécanismes qui ont été mis en place au plan réglementaire de cette institution qui vont bloquer l'institution, qui bloquent l'institution en réalité. Mais il faudrait que les peuples s'intéressent davantage à ces choses-là pour que ces mécanismes-là soient un peu plus souples et aillent dans le sens d'une facilitation de la prise des décisions et que autant la CEDEAO, l'Union africaine, mais surtout au niveau des peuples, qu'il y ait une dynamique qui puisse permettre de faire en sorte qu'il y ait une véritable alternance. Mais il faut pas faire l'alternance pour l'alternance, ça c'est vrai. S'il faut enlever un dictateur pour remplacer un autre, ça n'a pas vraiment d'intérêt.
C'est clair.
Maintenant, il faut qu'il y ait des propositions et que les gens puissent lire véritablement les programmes des sociétés qui sont proposés. Maintenant, est-ce que les gens qui ont tellement faim, qui n'ont pas d'instruction, qui sont victimes, qui sont véritablement dans une situation d'arriération, non pas parce qu'ils sont moins bien que les autres, mais parce qu'on leur a pas permis justement de s'instruire suffisamment pour pouvoir être lettrés, pour pouvoir être instruits, pour pouvoir avoir suffisamment une liberté économique, enfin une aisance économique qui leur permette de sortir d'une domination mentale et pour pouvoir décider librement de leur choix. Nous sommes dans cette situation dans la plupart des pays africains. Voilà pourquoi d'ailleurs ces dictateurs au petit pied arrivent justement très souvent à rouler les institutions qui ne roulent pas, elles les manipulent de sorte et puis elles changent les règles au gré de l'évolution de la situation.
D'accord.
Et face à ça, ce que je retiens en tout cas, c'est que ce que Hollande a décidé pour lui-même en France, ce n'est pas ce qu'il propose pour l'Afrique. Pourtant, il y a des Africains qui applaudissent et qui commencent à les regretter, mais c'est pas les dirigeants. Mais y compris chez les dirigeants d'ailleurs, parce que justement avec ce qu'il a fait avec le Congo, il faut comprendre que ces dirigeants n'étaient pas inquiétés du tout avec lui au pouvoir. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que les peuples s'organisent. Et je prends toujours cet exemple du Burkina Faso, où face aux mêmes velléités que Denis Sassou Nguesso au Congo, face à ces mêmes velléités de la part du président Compaoré, mais la population, le peuple s'est dressé, il y a eu des morts, mais nous avons été jusqu'au bout. Et nous allons continuer à honorer ces morts-là, toujours. Et il est important que ce soit le cas, mais ça ne va pas arriver de la même façon dans tous les pays au même moment. L'histoire est ainsi faite, hein. Mais je pense qu'inéluctablement, ça arrivera un peu partout en Afrique.
C'est pourquoi
il faut que les pays qui ont pu faire ça comme le Burkina Faso réussissent aussi pour que la jeunesse africaine partout ailleurs puisse se dresser également, mais avec aussi des dirigeants, y compris des gens qui ont été des dirigeants aussi avec qui ont géré le pouvoir avec certains dictateurs, parce que c'est pas non plus une tare, hein, et au contraire, il est bien de comprendre à un moment donné que l'on s'est trompé et de se mettre résolument du côté du peuple.
Merci beaucoup. Eh bien, la dernière question rapidement, Dr. Yves Kouyama-Iso. Vous l'avez suivi, hein, l'interview qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux partout dans le monde entier, et justement à l'occasion du sommet Afrique-France qui s'est déroulé cette semaine au Mali. Un journaliste français a interviewé quelques chefs d'État africains sur leur longévité au pouvoir, notamment Faure Gnassingbé, et sur les 50 ans de son règne de la famille Gnassingbé, qui s'accroche toujours quand même, hein. Et Faure Gnassingbé répondant, il dit, voilà, moi je vois pas le rapport, c'est ce qu'il a répondu. Et Denis Sassou Nguesso dit, c'est pas la même situation. Et Théodore Obiang dit, ouais, c'est le peuple qui choisit. Alors, quelle est votre réaction, Dr. Yves Ekouyama-Iso?
Mais écoutez, Monsieur Adama a dit quelque chose de fondamental. Il faut honorer les morts. Ils sont morts pour notre liberté. Ils sont morts pour la liberté de nos enfants. On ne peut pas les oublier. Donc l'hypocrisie, que ce soit celui de François Hollande, ou des gens qui dirigent dans leur conseil d'administration de la zone franc, puisqu'on a parlé de ça, ou des présidents que vous venez de citer, il faut que nous sachions qu'ils sont des hypocrites. Quand on demande à Monsieur Faure Gnassingbé au Togo, quelle est la relation entre les élections et la contre-vérité des urnes et son refus et son blocage des réformes constitutionnelles et institutionnelles au Togo, s'il vous répond « je ne vois pas le rapport », c'est qu'il ne comprend rien à la démocratie. Alors, quand quelqu'un lui pose la même question au Mali et qu'il a été surpris de cette question et qu'il ne peut pas le bastonner comme au Togo, et comme il ne peut pas le mettre en prison comme au Togo, et qu'il ne peut pas envoyer des gens ici et là, peut-être pour le coincer aussi, alors la solution la mieux, je ne vois pas le rapport. Donc tout le Togo se dit, mais finalement, c'est peut-être le plus grand intellectuel du Togo. D'où cette formule que chaque fois qu'il y a un problème au Togo, et que vous ne pouvez pas y répondre, vous ne répondez pas, je ne vois pas le rapport. Donc la question est de savoir... Est-ce que quand on vous pose la question, faut-il changer le franc CFA et passer à autre chose, vous répondez, je ne vois pas le rapport, vous êtes un président responsable? Quand on vous pose la question, vous allez faire ou pas les élections locales au Togo, vous répondez, je ne vois pas le rapport? Quand on vous pose la question, mais tous ces morts, qu'ils soient au Togo, au Burkina ou ailleurs, vous les avez oubliés? Et c'est qui a tiré dessus? C'est les populations civiles? Vous répondez, je ne vois pas le rapport? Donc on se pose la question, ces chefs d'État, le dictionnaire français, il y a beaucoup de mots dedans. Pourquoi ils n'ont choisi que « je ne vois pas de rapport » Et en fait, ils ne voient pas de rapport entre la démocratie et ce qu'ils font. Parce que s'ils voyaient un rapport, pour ceux qui sont chrétiens, ils vont en enfer directement. Et je peux vous dire qu'ils vont en enfer en ascenseur, ça va beaucoup plus vite. Mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont athées, mais il y a d'autres formes de justice que les humains doivent s'organiser. Et c'est ce qu'a dit Adama. Nous devons prendre conscience, faire prendre conscience et nous organiser. Et organiser, ça ne peut être que... collectif. Je reviens au collectif.
La conscience collective.
Il ne s'agit plus de voir nos différences, il s'agit de voir qu'est-ce qui dérange le bien-être. J'insiste bien, le bien-être. C'est pas un problème de France CFA, c'est un problème de bien-être des Africains. Savez-vous que dans les petites îles là-bas, des petites îles, Hong Kong, Singapour, on fait des appartements dans lesquels la hauteur est de 1m20, 1m30. Et vous payez jusqu'à 20 millions pour l'acheter, de dollars. Voici ce qu'ont fait les Occidentaux. Voici les objectifs de ceux qui cherchent l'argent. Et vous en Afrique, on a la terre, on a nos forêts, on a le soleil et il fait moins 10 ici aujourd'hui. Et vous voulez qu'on suive ce modèle-là, mais que les Africains se réveillent. C'est sur ce continent qu'il y a la paix, c'est sur ce continent qu'il y a l'argent, qu'il y a la richesse, il y a tout. Il suffit de l'organiser. Comme nous avons des individus qui ont choisi de travailler pour l'étranger, de travailler pour la servitude, il faut les identifier. D'ailleurs, on les connaît déjà. Donc, si c'est parce qu'ils nous donnent à manger des miettes et que nous acceptons cette servitude, tant pis pour l'Afrique alors, tant pis pour les Africains. Mais si certains commencent à se réveiller et commencent à comprendre aussi que si leurs enfants ne vont pas à l'école, n'ont pas d'éducation, n'ont pas la chance de trouver un emploi, encore moins un salaire décent, c'est certainement la faute du mauvais gestionnaire qui vous répond qu'il n'est pas mauvais gestionnaire parce qu'il ne voit pas le rapport entre sa gestion et la pauvreté qu'il y a dans le pays, alors ce monsieur-là, sincèrement, le peuple togolais doit se réveiller.
Exactement. Le peuple africain, le peuple togolais doit se réveiller. En tout cas, merci. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette émission. C'était Dr. Yves Ekwe Amaizo, économiste, coordonnateur du collectif pour la vérité des urnes, CVU Diaspora Togo. Et de l'autre côté, c'était de Paris, c'était... Adama Koulibaly, il est le porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie. Messieurs, bonsoir Adama Koulibaly.
Bonsoir.
Yves Ekwe Amaizo, bonsoir.
Bonsoir tout le monde, merci.
À bientôt, au revoir. Et merci de votre fidélité et sur l'actualité politique au Togo. Nous allons d'abord vous livrer notre éditorial.
Soso glo soso do Eloé.
C'est quand tant de mal gouvernance, ça suffit. 13 janvier 1967, 13 janvier 2017. Cela fait 50 années que le destin du Togo est pris en otage par le régime militaro-mafieux de Nyasimbe dans une gestion opaque et dictatoriale avec ce roulant de pillage systématique des ressources du pays par la minorité clanique, et ce, abandonnant dans une misère ambiante la majorité des Togolais. Et pour délivrer le Togo de ce mal exécrable qui ronge le peuple jusqu'aux os, d'une part, certains compatriotes avisés, des évêques du Togo y compris,
recommande au peuple d'exceller dans la prière et de faire confiance à Dieu pour une sortie prophétique du Togo du cachot du désespoir. D'autre part, les forces du changement poursuivent leur chemin de croix, criant la nécessité des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales pour sortir le pays de l'ornière. Peine perdue, doit-on dire ? Puisque les efforts se heurtent à un système qui prône inlassablement le pouvoir à vie de son prince. Une question se dégage donc. Comment arriver à une prise de conscience commune et collective pour obtenir les réformes, les opérer sans césarienne dans un consensus tenant compte des réelles aspirations du peuple, notamment l'alimentation du mandat du président de la République, une élection à deux tours, les institutions fortes, une armée républicaine dépouillée de toute implication partisane, une cour constitutionnelle et une commission électorale indépendante, etc. Oui, chers auditeurs, c'est bien de cela qu'il s'agit. Pas de réforme au charme du prince, ni de sa minorité qui vampirise tel un diable les acquis de l'indépendance du Togo sous feu Sylvanus Olympio. Parlant de la durée du mandat du président de la République, Faure Gnassingbé dit ne pas voir le rapport, répondant à une question d'un journaliste français qui compare les 50 années du clan Gnassingbé au pouvoir aux 5 ans de François Hollande. Preuve du cynisme et de la roubladise dont Faure Gnassingbé fait preuve s'agissant des réformes. C'était la semaine dernière à Bamako lors du 27e sommet Afrique-France. Cette traversée de désert du peuple togolais coïncide malheureusement avec une politique malsaine d'une certaine opposition caractérisée depuis quelques jours par, dit-on, le retour du bélier noir. Ce bélier affaibli, très affaibli et empêtré dans ses contradictions et autres vices, mais qui miroite un apprentissage fantaisiste de la politique de Jésus pour réduire le peu d'espoir qui reste au peuple togolais. Comme quoi, les chevaux à bout de course ne participent pas au tiercé. Comprenne qui veut comprendre. Yaoubi Agboibor, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a-t-il besoin de tremper la toute petite dignité de patriarche qui lui reste dans cette boue puante qui le décolore à jamais et l'inscrit sur la liste des dinosaures qui s'accrochent aux os des vêtus? Juste une question de cœur, chers amis auditeurs. À ce moment précis de l'histoire, que vit le peuple togolais, il convient que les populations s'activent aux côtés des hommes vertus de bonne volonté, en prenant leurs responsabilités pour s'opposer au pouvoir cinquantenaire. Comme un seul homme, disons non à la duperie de la communauté internationale, celle-là qui ne court que dans la direction de ses intérêts égoïstes, principalement les États-Unis, qui ont raté l'occasion de se taire en proposant au régime Gnassingbé une solution qu'il pensait plus bas, un référendum devant aboutir aux réformes. Irréalisme, voire incongruité, vu le contexte. Le Togo peut-il sincèrement aller à un référendum dans ce contexte où toutes les institutions du pays sont inféodées au pouvoir, leur premier responsable se prosternant devant le prince, chantant sa gloire sur tous les toits? Nous disons non, non et non, car les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Fin de citation. Aller à un référendum, c'est consacrer l'accès au boulevard tant cherché par Faure Gnassingbé pour s'éterniser au pouvoir. Peuple togolais, souvenons-nous de ces âmes qui sont tombées au bout des armes assassines de cette armée partisane qui constitue le socle du pouvoir de Gnassingbé. Douti Sinaleng, Anselme Sinandaré, Étienne Yakano aujourd'hui, Tavio Amorin, Marc Atidepe, Sylvanus Olympio, le martyr inconnu hier. La liste est longue. Que le cri du sang innocent de ces martyrs nous interpelle et nous donne le courage d'avancer. La victoire est au bout de l'effort. Togo, debout. Luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Merci de nous être fidèles sur le 3xw.canalk.ch et ses radios partenaires.
Peuple togolais, pouvoir et opposition.
Société civile. Nous sommes tous concernés par l'appel républicain de nos évêques. Faisons notre devoir citoyen en disant non à la nationalisation de l'indifférence. Armée togolaise, gardienne de notre dénigrement. Tu es aussi concerné par cet appel républicain de nos évêques. Lève-toi et défends tes fils et filles.
Sosoglo, sosodo, elole.
La patrie nous appelle. Peuple togolais, l'heure du réveil a sonné. Toutes et tous, bâtissons la cité.
Oui d'accord, avions la voie. Oui d'accord, milagro elo. Oui d'accord, avions la voie.
Ceci est un message de la diaspora togolaise sans couleur politique. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Le Parti des Travailleurs de Claude Abedengui et CAP 2015, une coalition de partis politiques, soutiennent dans un communiqué les revendications des enseignants qui font depuis quelque temps des grèves répétitives. Nous allons recevoir tout de suite, pour en parler en direct, depuis Lomé, Sativi Foli, qui est le coordinateur général de la coordination des élèves et étudiants du Togo, CEET. Sativi Foli, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Vous avez suivi la grève des enseignants, soutenue actuellement par le Parti des Travailleurs et CAP 2015. Mais vous, en tant que coordinateur général de la coordination des élèves et étudiants du Togo, CEET, vous dénonciez entre-temps aussi les conditions de travail des étudiants. Alors du coup, que vous inspire ces grèves des enseignants au Togo?
Je peux dire qu'en fait, depuis un certain temps, après avoir appris que les enseignants sont entrés en grève pour demander la satisfaction de leur plateforme revendicative, nous avons fait sortir un communiqué pour dénoncer cette mascarade, parce qu'on ne peut pas accepter que depuis 2013, les enseignants se plaignent par rapport à leurs conditions de vie et de travail. Et dès lors, ce sont toujours les mêmes revendications, mais jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a rien fait. Mais ce qui nous énerve, c'est que ce sont les élèves qui en pâtissent. Parce qu'aujourd'hui, quand les enseignants sont en grève, ils disent souvent que les cours sont considérés comme faits. A contrario, les élèves sont donc obligés de sortir dans la rue pour réclamer donc leurs cours. Et c'est le même scénario qui a commencé depuis 2013 jusqu'à ce jour. Donc là, tout dernièrement, nous avons fait sortir un communiqué dans lequel nous demandons au gouvernement d'entrer en discussion avec les enseignants en vue de satisfaire ces revendications pour qu'on n'assiste plus au bâclage des cours, au bachutage et au bradage de l'avenir des élèves.
Et vous venez de dire que le gouvernement ne fait rien, mais justement on a appris que déjà c'est depuis 2012 que le secteur éducatif togolais est secoué par de récurrentes grèves des enseignants. Mais mercredi dernier, il semblerait que et le gouvernement et les syndicats se sont rencontrés pour trouver un consensus. Et justement, mercredi prochain, ils vont encore se retrouver et voir dans quelle mesure le gouvernement pourrait satisfaire aux revendications des enseignants. Mais toutefois, vous êtes à Lomé, il semblerait également que les centres syndicaux, mais les syndicats ont également assisté à plusieurs assemblées générales. Est-ce que vous avez eu également l'information et Sativi Foli?
On a eu aussi l'information selon laquelle les enseignants ont eu à faire des assemblées générales consultatives. Parce que je pense que c'est la bonne méthode. Quand on met porte-parole d'un regroupement, il faut toujours faire le rapport à la base. Donc vous venez de parler d'un groupe de travail qui a été mis en place par le gouvernement. Pour l'instant, je demeure sceptique. Parce qu'au lieu de régler la question enseignement, le gouvernement s'en va encore créer un groupe de réflexion, un groupe de travail. Ce qui veut dire que la question, que les doléances que posent les enseignants ne seront pas réglées aujourd'hui ni demain. Donc elles seront d'abord traitées dans ce groupe de travail avant d'être déposées sur la table du chef de l'État. Vous savez comment ça se passe ici au Togo. Quand il y a un problème, on fait la fuite en avant, on crée une commission, soit on crée un groupe de travail et par après, le bachotage, donc rien n'est fait, finalement, retombe dans le même chemin, c'est la ristourne. Donc aujourd'hui, nous, au niveau de la coordination des élèves et étudiants du Togo, nous sommes sceptiques par rapport à ce groupe de travail, mais espérons que le gouvernement fasse primer sa bonne foi et sa bonne volonté afin qu'on puisse sortir de ce carcan. Le cas échéant, nous allons très prochainement appeler les élèves du Togo à sortir massivement dans les rues pour dire non à tout ce qui se fait actuellement.
Donc, vous voulez nous dire, et Sactivi Folly, vous qui êtes le coordinateur général de la coordination des élèves et étudiants du Togo, CEET, que vous soutenez à 100% et ces grèves des enseignants et togolais qui réclament hein, des meilleures conditions de vie. C'est ça que vous voulez insinuer?
Oui, c'est ce que nous voulons dire. Parce qu'aujourd'hui, pour que nous, élèves, nous puissions réussir, nous puissions vraiment être bien formés, nous puissions vraiment avoir de bonnes bases, je pense qu'il va falloir que les enseignants qui nous dispensent les cours soient aussi dans de bonnes conditions. Parce qu'un enseignant affamé ne peut vraiment donner un bon cours aux étudiants, ne peut vraiment donner le meilleur de lui-même. À partir du moment où l'enseignant est mécontent, je pense que c'est l'élève, et c'est sur l'élève que reposent toutes les conséquences nécessaires. Par conséquent, nous ne pouvons que soutenir cette grève. Et aussi, du fait qu'aujourd'hui, nous sommes étudiants, nous sommes aussi appelés à être un jour enseignants. Si la question enseignante trouve aujourd'hui une solution, je pense qu'elle profitera à nous aussi qui, dans un petit peu, serons enseignants.
D'accord. Eh bien, vous avez organisé mardi dernier un colloque à Lomé, deux thèmes principaux à retenir hein, pour nos auditeurs, justement, et vous avez discuté de ces thèmes-là, hein, la communauté étudiantine africaine face au système LMD, quelle stratégie? Et le deuxième thème, c'était le franc CFA, une monnaie d'intégration africaine ou un instrument de domination coloniale. Alors, Sativi Folly, pourriez-vous nous dire exactement ce qui en est sorti de ce colloque?
Oui, exactement. La Ligue togolaise des droits des étudiants, que je préside, a organisé en collaboration avec d'autres organisations de la société civile les journées d'action et de solidarité aux luttes des masses pour les réformes. Et au nombre des activités inscrites, nous avons eu à faire un colloque le mardi 17 janvier, au cours de laquelle nous avons eu à parler du système LMD qui aujourd'hui constitue le nœud gordien autour duquel les étudiants de l'université de Lomé et de Kara sont en train de parler. Nous avons aussi eu à parler du système colonial qui empêche l'Afrique d'évoluer. Je veux parler justement du franc CFA qui empêche tout développement en Afrique, qui nous conduit directement vers le sous-développement. Donc, tous les participants s'étaient mis d'accord sur le fait qu'il faut vraiment qu'on aille vers une réforme en profondeur du système éducatif togolais. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que l'année passée, l'université de Lomé a fait sortir un rapport selon lequel, après 7 ans d'application du système LMD, le taux de réussite à l'université de Lomé est de 0,14%. Ce qui veut dire qu'en 7 ans, si on prend 100 étudiants, il n'y a peut-être qu'un seul qui a eu sa licence. A contrario, aujourd'hui, le débat reste donc posé. Nous sommes cette année 80 000 étudiants à l'université de Lomé. Ce qui veut dire qu'en 7 ans, il n'y a que 800 étudiants qui auront leur licence. Alors que dans 7 ans exactement, il y a plus de 4500 fonctionnaires qui partiront à retraite. A contrario, il y aura des bureaux vides. Donc la continuité de l'État reste donc à remettre en cause. À côté de ça, il y a aussi la question des moyens. Parce qu'aujourd'hui, il y a lieu de comprendre que nos États africains ne se sont pas préparés à accueillir, n'avaient pas tous les moyens nécessaires pour pouvoir appliquer le système LMD. Mais pour plaire à la Banque mondiale, au FMI et à la France, ils ont donc appliqué ce système sans pour autant vouloir vraiment former. Donc les participants se sont mis d'accord sur le fait qu'il faut aller vers les réformes. Mais nous, au Togo, ici, nous avons tout simplement demandé au gouvernement d'aller vers les états généraux de l'enseignement supérieur. Parce que c'est à partir de cet instant qu'on puisse recevoir l'avis de tout un chacun d'entre nous, aussi bien des autorités que des organisations étudiantines, pour essayer de mettre en place un système qui puisse vraiment porter le développement du Togo. À côté aussi, nous avons eu à échanger sur la question du franc CFA. Et tous les participants, les camarades venus du Bénin, du Burkina, du Mali et autres se sont mis d'accord sur le fait que le franc CFA est une monnaie de domination coloniale. Donc, à contrario, il faut que nous combattions sur cette monnaie qui nous empêche de pouvoir évoluer. Je vais vous donner un exemple pour lequel je dis que le franc CFA est une monnaie coloniale. Le 26 décembre 1945, la France a décidé de la création d'une monnaie aux États africains. Je précise, la France a décidé de la création d'une monnaie qui était dénommée colonie française, franc des colonies françaises d'Afrique. Et en ce moment, le franc CFA était échangé contre 1,70 francs français. Aujourd'hui, avec le système de la libre convertibilité, la France décide de la dévaluation décide de la dévaluation du franc CFA. C'est lui qui dit que le franc CFA peut être échangé, qui décide du taux de change du franc CFA. Donc aujourd'hui, le franc, 1 euro est échangé contre 6,55 francs CFA. Ce qui aujourd'hui contient un poids d'argent. Donc le franc CFA, non seulement est un système colonial, mais aussi est un système qui nous empêche de pouvoir évoluer. Et tous ceux qui se sont levés contre ce système colonial ont été assassinés. Je vais vous donner l'exemple de notre président. Le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio a été assassiné. En 1968, après que Modibo Keïta, président du Mali, s'est retiré de la zone franc, il a été assassiné. Et vous connaissez aussi tous ceux qui ont été assassinés pour avoir dénoncé la question du franc CFA. Donc aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul choix, combattre ce franc français et proposer une autre alternative.
Exactement.
Et à côté, aujourd'hui, le FMI met encore sur la table la question de la dévaluation, comme il avait mis le 10 janvier 1994, au moment où le ministre de la coopération française avait convoqué les 14 chefs d'État. Je précise bien, un ministre français qui convoque 14 chefs d'État africains pour leur demander de dévaluer de 50% une monnaie. Je pense que ce n'est pas normal, parce qu'à partir du moment où on dit que le Togo est un État indépendant, le Togo doit décider de sa propre monnaie, de sa politique monétaire. Il n'est donc pas la France de nous imposer des choix. Donc aujourd'hui, il faut que ce soit clair, le franc CFA nous empêche d'évoluer, le franc CFA n'a pas une bonne monnaie, il faut la combattre à
tout
prix.
C'est
donc
clair.
Ce qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, nous nous sommes mis d'accord pour combattre ensemble ce système.
D'accord.
Des recommandations ont été faites pour être adressées aux dirigeants politiques et économiques de l'Afrique, et nous avons mis en place un comité de suivi pour pouvoir contrôler cela. Mais si le gouvernement ne réagit pas dans un bref délai, nous serons obligés d'aller vers des manifestations publiques, ce que nous n'aurions normalement pas aimé. Mais il ne réalise pas l'ultime choix, c'est d'aller vers cette voie-là.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Sativi Foli, coordinateur général de la coordination des élèves et étudiants du Togo, CEET. Merci de nous avoir accompagnés en direct depuis Lomé. Bonsoir.
Ben Radio en France, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci de votre fidélité sur le 3xW.canalk.ch. Émission en rediffusion demain dimanche à 13h heure de Paris sur EBN Radio. Et vient de nous rejoindre dans cette émission le professeur Issifou Moussa, qui est professeur des sciences humaines et de critique littéraire à l'Université d'État de la Caroline du Nord. Bonsoir et bonjour Moussa Issifou.
Bonjour Amos.
Merci beaucoup de nous rejoindre dans cette émission. Vous avez suivi notre invité depuis Lomé, qui est le coordinateur des étudiants et des élèves. Justement, le Parti des travailleurs de Claude Amengambi et CAP 2015, une coalition des partis politiques, soutiennent dans un communiqué les revendications des enseignants qui poursuivent les mouvements d'humeur pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Alors, le gouvernement persiste dans sa roubladise, selon des enseignants, de satisfaire à leurs revendications. Et professeur Issa et Issifou Moussa, que vous inspire alors ces grèves des enseignants?
Merci Amos. Je pense que lorsqu'un gouvernement fait du pilotage à vue, sans méthode de gestion des affaires de l'État, c'est le résultat qu'on peut avoir. Sinon, disons que cette grève ne date pas d'aujourd'hui, comme l'a souligné M. Foli. Elle date d'il y a 20 ans, je pense, et qu'à chaque rentrée, les enseignants posent un certain nombre de revendications. Le gouvernement fait des promesses, les enseignants y croient, ils commencent, ils prennent les cours, et puis rien n'y est fait. Donc, on est là aujourd'hui parce que le gouvernement a choisi, n'est-ce pas, d'ignorer tout ce que les enseignants posent comme revendication. Donc, à chaque année, c'est ce que nous allons voir. Les enseignants iront toujours en grève et le gouvernement fera semblant d'avoir écouté. Ils font des promesses et puis rien ne sera fait. Donc, je pense que c'est la suite logique, n'est-ce pas, de la politique que nous appelons mal-gouvernance ici, parce que ça fait, c'est l'une des caractéristiques visibles même de ce qu'on appelle mal-gouvernance. Lorsque les gens n'ont pas de vision, les gens gouvernent comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Sinon, ces revendications des enseignants sont légitimes, le gouvernement les reconnaît comme telles, mais il ne fait rien pour adresser ces problèmes-là. C'est pourquoi nous sommes là. Donc moi, je pense que la balle est dans le camp des enseignants. S'ils acceptent d'être roulés dans la farine chaque année et rien n'est fait concrètement, je pense que bon, c'est leur problème. Parce que cette fois-ci, je pense que il faudrait que les résultats soient clairs, posés sur la table avant que qu'ils ne puissent, n'est-ce pas, à reprendre le chemin de classes. Puisque à chaque fois que cette grève vient, les parents en souffrent. Mais s'il faut prendre cette année pour résoudre ce problème, une fois de bon, moi je pense que il va falloir le faire. Sinon, ce gouvernement n'entend que le langage, n'est-ce pas, de la grève, c'est ce que je peux dire. Bon, s'ils sont vraiment conscients que l'avenir d'un pays passe par l'éducation, ils n'ont qu'à écouter les enseignants et ils n'ont qu'à satisfaire aux revendications des enseignants et puis c'est fini, on n'en parle plus.
Exactement. Docteur Yves Ekwe Amaizo, de très loin, vous suivez l'actualité sociopolitique au Togo, puisque vous êtes Togolais, et la situation inquiète beaucoup de Togolais dans la diaspora surtout. Que vous inspire ces grèves des enseignants?
La première chose que je vais vous dire, le Togo se vante d'avoir plus de 5% de croissance économique. Un pays qui soutient ses enseignants, son école, ses écoliers, ses étudiants. Plus généralement, la formation, si possible une formation à valeur ajoutée qui vous donne de l'emploi. Un gouvernement qui fait cela doit, sur le plan technique, avoir minimum l'équivalent de sa croissance nationale, c'est-à-dire 5%. Et comme il s'agit de la partie la plus importante, cette partie de l'éducation, elle doit être doublée. C'est-à-dire que si le gouvernement togolais était sérieux, je dis bien était sérieux, le taux de croissance ou le budget affecté par rapport au produit intérieur brut de ce pays devrait être de 10%. Pour les gens, simplement, les dépenses de l'État, 10% doit être réservé à l'éducation. Du plus petit, jardin d'enfants, jusque là où on peut envoyer les formations continues, etc. Le Togo, avec tous les chiffres et tout mélangé, en sachant qu'ils y ont rajouté les formations des militaires, nous sommes à 4%. Déjà en dessous de ce que fait le Togo en termes de croissance. Et quand vous savez que quand vous allez dans le détail, une bonne partie de ce taux va dans l'infrastructure des équipements, des bâtiments, qui sont souvent pas toujours de très bonne qualité, vous voyez bien qu'en fait, le Togo n'affecte que 1 ou 2% à son éducation. Donc, par conséquence, ne soyez pas étonnés qu'on ne puisse pas payer les parents, les éducateurs de manière globale, que ce soit des enseignants du primaire, du secondaire, de l'universitaire, etc. Qu'on ne puisse pas les former pour qu'eux-mêmes soient très performants et même excellents dans ce qu'ils transmettent. Et qu'on ne puisse pas faire ce que le Togo faisait avant. Je vous rappelle qu'il y a une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, c'est nous les Togolais qui formions les gens en Côte d'Ivoire, dans les pays voisins, etc. Et reconnu. Et d'ailleurs, ce ne s'est pas perdu, puisqu'on retrouve beaucoup de Togolais dans la formation, dans la diaspora. Donc, la mauvaise gouvernance dont a parlé le monsieur tout à l'heure, non seulement est vraie, mais on peut le documenter au niveau statistique. Ça, c'est un. Mais mettons de côté le dysfonctionnement. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ne savent pas faire. Alors, il y a deux solutions. Quand on ne sait pas faire, on laisse les gens qui savent faire, faire. On dit en Côte d'Ivoire, si tu peux, peux. Voilà ce qu'on doit dire aux Togolais. Hein? C'est ça qui est fondamental. On ne dit pas ce que j'entends régulièrement, que écoutez, c'est pas important, c'est ceci, on laisse les gens faire la grève. D'ailleurs, la grève, ce n'est pas une solution, puisque ça ne résout pas au fond le problème. Ouais. C'est ça qui est le problème fondamental. Alors maintenant, c'est un rapport de force. Même quand ils font grève, vous savez très bien comment ça se passe. On va sortir quelques militaires. Une fois sur deux, eux-mêmes ne savent pas l'importance de l'école et de l'éducation. Donc eux, c'est la chicotte. Que voulez-vous faire? Vous avez faim. Vous ne vous en sortez pas. La chicotte arrive, vos parents ne veulent pas perdre leurs enfants, encore moins des blessés, les hôpitaux sont des mouroirs. Mais écoutez, vous battez en retraite. Donc la solution est une prise de conscience.
Elle est en train de se faire d'ailleurs. Ces grèves contribuent à cela. Mais il y a un problème de fond. C'est que les gens croient que c'est d'une manière catégorielle qu'on va régler les problèmes. C'est pas parce qu'il y a une grève des enseignants, une grève des écoliers, une grève des personnels hospitaliers que les choses vont se résoudre. Il faut qu'ils sachent que la même cause est à l'origine de tous ces problèmes. Et que c'est en fait les mêmes personnes, le même oligarchie qui dirige ce pays, qui est à la cause de ce problème. Et donc c'est collectivement qu'ils doivent arriver à trouver une solution. C'est bien d'avoir des représentants pour l'éducation, pour la santé, pour tel ou tel domaine sectoriel. Et d'ailleurs, beaucoup s'en vantent. Mais il ne faut pas oublier que les luttes ne se gagnent que collectivement. Puisque la cause, elle est commune. Mais en refusant de voir une cause commune et en essayant de régler son problème de manière individualisée, ce n'est pas compliqué. On leur envoie les militaires, on leur envoie les soldats, on leur envoie la bastonnade. Et face à cela, vous ne pouvez pas envoyer des gens non armés, pacifiques, contre ces gens-là. Qui en plus ne savent pas l'importance, je dis bien l'importance. Je vous rappelle que le feu professeur à Goubli, il était aussi enseignant, me racontait qu'on voulait le tuer, l'assassiner, ce qui a finalement été fait. Mais qu'un soldat est venu, un militaire donc, togolais, patriote, je ne veux pas faire ça. Et qu'est-ce que le soldat a fait? Le soldat a brûlé sa bibliothèque. Et quand il a su, il a cherché, il a trouvé. Et le soldat lui expliquait, mais non, on m'a dit de vous tuer. Mais moi, je ne peux pas vous tuer. J'ai cru que vous copiez dans les livres. Donc, en brûlant les livres, je vous ai sauvé la vie. Vous voyez le niveau de ce militaire. Il n'empêche qu'à l'époque, il avait sauvé la vie de ce monsieur. Et plus tard, ça s'est fait autrement. Donc, j'essaie de vous montrer qu'il y a aussi un vrai problème de compréhension de l'importance de l'éducation sur des populations.
D'accord.
Donc, ce n'est pas seulement nous-mêmes qu'il faut former, éduquer, transférer le savoir ou l'information. Il faut former nos amis militaires. Il faut qu'ils sachent, un pays ne se gouverne pas à la chicotte.
C'est clair.
Et ça ne se gouverne pas non plus à la carotte. Il faut d'abord produire cette carotte-là. Et nous avons les moyens au Togo pour le faire, nous étions autosuffisants par le passé. Et aucun professeur sérieux ne peut réfléchir si son estomac est vide. Chacun le sait. Et le professeur veut même devenir entrepreneur, à la rigueur, pourquoi pas ? Puisqu'il a le temps, ici et là, de pouvoir faire autre chose. Encore faut-il que les opportunités pour devenir entrepreneur soient là. L'électricité est coupée, le téléphone portable est coupé, l'internet ne marche pas, et ça coûte très cher. Quant à manger, on brûle les marchés, on va même jusqu'à brûler l'église. Et il n'y a pas de WC dans l'université de Kara. Et quand les filles vont faire leurs besoins, en temps de revenir, c'est des viols en chemin. Mais comment voulez-vous qu'un pays fonctionne ? Ce sont des choses qu'il faut dire. Mais où sont nos parlementaires de l'opposition? Pourquoi ils n'écrivent pas leurs parlementaires
justement,
en Occident pour leur dire, mais vous savez, quand vos collègues ministres viennent là et qui viennent dire que le Togo est démocratique, je vous rappelle qu'il n'y a pas de WC à la Makara et qu'on a brûlé tel ou tel aspect ou telle partie du Togo et que les gens sont en train de faire grève parce qu'on ne leur a pas donné à manger pour enseigner leurs enfants. C'est ça la vraie lutte. Elle doit être commune.
Exactement.
Au même titre qu'on a parlé tout à l'heure du français CFA s'organiser de manière commune, il faut revenir à cet effort-là. Malheureusement...
On va en parler de cette conscience collective tout à l'heure, dans quelques minutes. Justement, elle nous accompagne également dans cette émission, deuxième partie, actualité sociopolitique au Togo. Docteur Moussa Issoufou, je le disais, il est professeur des sciences humaines et de critique littéraire à l'Université d'État de la Caroline du Nord. Les réformes politiques, parlons-en avec vous, docteur Moussa Issoufou, et avec le dilatoire du gouvernement, Fort Nassimé, qui a mis en place une commission devant mener des réflexions pour proposer, dans un bref délai, un test global qui tient compte des réalités du Togo, de l'histoire et des aspirations profondes du peuple. Alors, docteur Moussa Issoufou, croyez-vous à l'opérationnalisation de ces réformes dans les prochains mois?
Pas du tout. Moi, je dirais tout simplement non. Et je vais même ajouter que c'est Fort Nassimé seul qui sait que trop de commissions, n'est-ce pas, ne tue pas la commission, n'est-ce pas? C'est lui seul qui ne sait pas que trop de commissions tue la commission. Parce que ce que je vais dire par là, Fort sait bien qu'il ne fera jamais de réforme. Ça, à moins que l'on y oblige à le faire. Donc, la commission qu'il est en train de créer, c'est une façon pour lui, n'est-ce pas, de se moquer du peuple togolais. Moi, je pense que c'est une façon pour lui de se moquer du peuple togolais. À partir du moment où il y en a eu trop de commissions sur ces réformes-là. La fameuse commission, la dernière, Ashkoun ou Ashkoun. Moi, je ne sais pas pourquoi, après tout le boucan, tout le bouhaha que l'on a fait, n'est-ce pas, autour de cette commission-là, Ford puisse encore aller sur la pointe des pieds, mettre encore sur pied une commission. Une commission pour quoi? Une commission pour faire quoi encore? Quand même. Bon, je pense que le destin d'un pays se décide par son peuple. Et nous l'avons dit et on va toujours le répéter. Le peuple togolais, je pense, est là, il est conscient, et tout le monde sait aujourd'hui que Faure n'a pas envie de faire les réformes, puisque accepter de faire les réformes signifie possibilité d'une alternance politique au Togo, possibilité d'un changement de régime au Togo. Or, cela n'est pas dans l'agenda de Faure Gnassingbé. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe et il faut trouver d'autres moyens pour amener ce monsieur, n'est-ce pas, à engager les réformes.
Justement, quels sont ces moyens? Vous avez des propositions?
Ben, ces moyens, c'est pourquoi je renvoie la balle dans notre camp, le camp du peuple togolais. Et qui doit, n'est-ce pas, comprendre que
s'organiser.
Attendre ne nous mènera nulle part parce que rien ne sera fait.
D'accord.
Donc il faut que le peuple se réorganise. Je sais qu'il y a eu des frustrations, il y a eu des découragements, il y a tout.
D'accord.
Mais lorsque vous êtes en train de poursuivre un lièvre, à partir du moment où le lièvre continue par courir, il faut quand même avoir le souffle pour continuer
d'accord.
à courir derrière le lièvre, c'est tout.
D'accord. On va voir ce que pense Dr. Yves Ekwe-Amaizo par rapport à ces réformes institutionnelles et constitutionnelles, puisque vous l'avez évoqué dans la toute première partie de cette émission. Alors, Faure vient de mettre en place une nouvelle commission devant mener des réflexions pour proposer dans un bref délai un test global qui tient compte des réalités du Togo, de l'histoire et de ses aspirations profondes du peuple. Justement, dans cette commission, il y a des professeurs, des éminents professeurs, un ancien premier ministre. Alors, pour vous, est-ce que vous pensez que cette commission fera un travail qui pourrait aboutir à l'opérationnalisation de ces réformes-là dans les prochains mois, Dr. Yves Ekwe-Amaizo?
Vous savez, il y a deux façons de faire la politique. Soit vous essayez de résoudre les problèmes, je dis bien résoudre les problèmes. Et quand vous résolvez les problèmes, tout le monde est au courant que vous êtes quelqu'un qui essayait au moins de résoudre des problèmes. C'est-à-dire que les problèmes se posent avec des datations, avec des dates. À une date X, un problème s'est posé. Et on sait, par habitude, que ce monsieur qui dirige, à une date Y, le problème a au moins trouvé un début de solution, voire une solution. Qu'elle soit parfaite ou pas, on peut toujours discuter. Le problème de M. Faure Gnassingbé, c'est que chaque fois qu'il y a un problème important au Togo, notamment touchant la population, alors il n'y a jamais de solution. Donc quand vous me parlez de réforme constitutionnelle, institutionnelle ou autre, la technique n'est pas de la faire. La technique consiste à repousser dans le temps le plus longtemps possible. Donc quand on vous parle de commission, de qui va discuter ce qui a déjà été discuté, quand on vous rappelle que ce monsieur n'a pas respecté les engagements qui ont été pris, l'accord politique global et autres, que les Européens eux-mêmes sont fatigués et que ce qu'eux-mêmes ils ont dit qu'il fallait faire n'est pas fait et ça ne les dérange pas parce qu'ils veulent faire du business, et qu'en plus, il va falloir que l'aide au développement, qui pour eux ne rapporte rien, doit avoir un retour sur investissement, donc ils envoient l'aide pour que ça retourne chez eux, surtout en période électorale aujourd'hui, vous comprenez que M. Faure Gnassingbé ne travaille pas pour le Togo. Pourquoi vous lui parlez de réforme constitutionnelle? Mais ce n'est pas son problème. Donc, il faut bien qu'il trouve une solution pour vous calmer, vous, les populations, et les Occidentaux. Donc, la commission sert à cela. La deuxième partie de votre question, est-ce que la commission va produire un document? Mais bien sûr, c'est quand même pas des fous qu'il a mis dedans. Vous-même, vous avez cité des gens, non? Ils vont produire un document. Mais puisqu'il s'agit de perdre du temps, j'insiste bien là-dessus, faut qu'on voit toujours les finalités.
Le problème n'est pas la qualité ou pas d'un document. Le problème est que le document doit permettre de perdre du temps. Donc, la commission va venir avec des choses inacceptables pour les populations. Inacceptables pour une opposition sérieuse qui soutient les populations. Inacceptables pour les professeurs, les enseignants et les gens qui ont parlé tout à l'heure. Quand c'est inacceptable, qu'est-ce qui se passe? Mais on en discute. On refait le document. Ça veut dire quoi? Qu'on gagne du temps. Qu'on perd du temps. Il faut que le Togolais comprenne que c'est les deux seules choses qui intéressent ce gouvernement. Gagner du temps ou perdre du temps. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas la même chose? Si vous savez que c'est la même chose, alors ne vous occupez pas si ce qu'il va faire avec ou sans commission va marcher. L'objectif, c'est de perdre le temps. Depuis quand on devait faire les élections locales dans ce pays? Depuis quand? C'est ce que je vous ai dit au début. Il y a toujours un problème et ce n'est jamais résolu. Que ce soit les différentes grèves, que ce soit les gens de la santé, les gens de l'éducation aujourd'hui ou d'autres, est-ce que ça a été résolu? Oui, il y a une façon de le résoudre. On identifie celui qui est le plus peureux, généralement au-dessus, on l'appelle la nuit, on lui donne l'argent. Lui-même, une fois qu'il a pris l'argent, il oublie ses frères ou ses sœurs et puis il continue sa route. Bon, cette façon de travailler même n'arrive plus à fonctionner. Même ça, ça ne fonctionne plus. Donc le problème est de savoir, mais ce peuple togolais, finalement, est-ce que c'est vraiment contre Faure Gnassingbé qu'il a un problème? Est-ce qu'il n'a pas un problème avec lui-même? C'est un peuple qui, au fond, n'arrive pas à s'organiser collectivement. N'arrive pas à comprendre que le problème X qu'il y a dans l'enseignement, dans la santé, dans les gens de l'électricité, ou ici ou là, mais c'est le même problème. C'est la même source. Donc, de se réunir pour essayer de voir comment on résout ça. Pas nécessairement confier ça aux hommes politiques, puisque beaucoup nous ont trahis dans l'opposition. Donc, comment on résout ça? Comment on résoudrait nous-mêmes ce problème? Quand nous avons cette solution, nous avons donc une alternative. C'est important, avoir une alternative. Sinon, nous allons rester systématiquement dans la critique. Il n'a pas fait ceci, il passe son temps à faire des commissions, la commission n'avance pas, puisque c'était fait pour perdre le temps. Il va perdre le temps. Quand le temps est perdu, on va dire qu'on n'a pas gagné du temps, donc il y a un manque d'opportunité. Bon, écoutez, si on continue comme ça, on va passer son temps à se plaindre.
C'est clair.
Et se plaindre ne fait jamais avancer quelque chose.
C'est clair.
C'est comme quand vous pleurez dans un enterrement. Le mort n'a jamais ressuscité, même si en Afrique, nous savons que les morts ne sont pas morts.
D'accord.
Qu'on soit clair dessus.
On va relancer, on va relancer Dr Moussa Issoufou depuis Caroline du Nord. Dr Yves Ekwe-Amaizo vient de parler de trahison, d'organisation. Et vous aussi, vous l'avez dit, hein, il faut s'organiser. Il faut que le peuple s'organise. La balle est dans le camp. Et maintenant, du peuple par rapport à ces réformes institutionnelles et constitutionnelles et qui tardent à s'opérer au Togo, justement face à cette situation. Beaucoup parlent de résignation du peuple après surtout le déchirement de l'opposition couplé des incohérences dans les différentes stratégies. Et d'autres même parlent de conscience collective afin de mettre en place une véritable société civile et qui pourrait être la panacée face au mal togolais. Docteur Moussa Issoufou, comment analysez-vous cet état de choses?
Oui, je pense que, comme tout le monde a le sait déjà aujourd'hui, le peuple togolais, je pense, se sent, comment l'appelle-t-on, découragé, se sent trahi par les hommes politiques qui y avaient voulu, n'est-ce pas, se présenter comme ceux-là qui pourront, n'est-ce pas, faire avancer le peuple dans le sens, n'est-ce pas, du choix de son destin, et ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, je pense que nous allons nous examiner. Il va falloir faire une nouvelle introspection. Introspection dans le sens de nous demander individuellement et ce que nous avons fait pour contribuer à cet état de choses. Et lorsque nous aurons, n'est-ce pas, construit une conscience individuelle, nous pourrons avancer vers une conscience collective. Parce que tu ne peux pas vouloir faire une union quelque part lorsque tu n'es pas uni avec toi-même. C'est le problème du Togolais. Les Togolais aujourd'hui, en tout cas, je ne dis pas tout le monde, il y a des Togolais qui ne savent plus ce qu'ils veulent. Il y a des Togolais qui sont pressés d'aller manger. Il y a des Togolais qui se disent que quoi qu'on fasse, rien ne va changer. C'est pourquoi je me demande à chacun de nous, n'est-ce pas,
de faire une introspection, faire en sorte qu'on puisse examiner de l'intérieur afin de pouvoir situer notre propre responsabilité dans ce qui se passe au Togo. Lorsqu'on aura fini de faire ce travail, on pourra, n'est-ce pas, s'associer et avancer avec tout le monde. Je pense qu'une conscience collective ne peut se construire que lorsque les consciences individuelles, n'est-ce pas, ont déjà été faites.
C'est clair.
Donc c'est ce que nous, je pense maintenant. Donc nous avons encore espoir. On ne pourra jamais perdre l'espoir. Même dans les grandes démocraties où nous vivons aujourd'hui, nous, rien ne se passe sans que le peuple ne se montre, n'est-ce pas, déterminé à avoir ce qu'il veut. Rien ne se passe comme ça. Tout est acquis à travers, n'est-ce pas, une lutte, à travers un effort venant du peuple. Chez nous, ici aux États-Unis, nous parlons de activism, tout ça là. Nous tous, c'est le travail que nous faisons ici. On fait tout pour que les conditions de vie des gens, de là où nous vivons, dans nos communautés, soient meilleures. Et cela ne se donne pas comme ça. Nous sommes toujours à pied de guerre ici. On fait tout pour que celui-là qui gouverne sache que cette façon de gouverner, cette façon de décider ne plaît pas à tout le monde. Et c'est comme ça que les gens se ravisent. Alors, si aux États-Unis, en Europe, où la démocratie est déjà ancrée, les gens ne restent pas les bras croisés, et que dire du Togo ? Ou que M. Jean-Baptiste Placa avait qualifié de démocratie tétraplégique entre-temps. Alors, je pense que nous devons quand même être conscients, individuellement d'abord, avant d'aller vers une conscience collective.
C'est clair.
Mais disons que nos politiques nous ont vraiment trahis. Il faut le dire haut et fort. Ils nous ont trahis. Et nous devons quand même essayer de dépasser cela et faire en sorte qu'on puisse leur apprendre. N'est-ce pas, une nouvelle façon de faire afin, n'est-ce pas, d'aller ensemble vers ce que nous voulons. Puisque
en gros,
nous poursuivons la même cause.
Exactement. En gros, mettre en place une véritable société civile tant au Togo et tant et dans la diaspora togolaise. Justement, docteur Yves Ekwe à Maïso, vous avez essayé d'établir quelques systèmes de ce régime-là, Gnassingbé au Togo, et là, appauvri et mettre le peuple dans un état d'ignorance, les diviser pour mieux régner, et c'est le système utilisé et pas la dictature pour mieux dompter leur peuple, hein. Et dans le cas du Togo, et sur le plan économique, des compatriotes qui désirent installer une société au Togo doivent, selon des informations, être dans les grâces du régime séquentenaire. Alors, dans cette condition, on parle souvent de conscience, on vient de parler de conscience collective. Comment arriver à cette conscience collective, docteur Yves Kouyamaïso?
Alors, il y a deux parties. Pour la création des entreprises au Togo, vous savez, ce que vous avez dit résume la situation. C'est pas que des gens n'ont pas essayé, ils ont essayé, ils ont perdu de l'argent. Donc souvent, ils reviennent. Moi-même, je suis entrepreneur, je le dis pas, mais j'ai une société et je gère mes activités avec une société qui est à Londres et qui est ici en Autriche. Donc, laissez ce côté, je ne travaille pas avec le Togo. Pas parce qu'on n'a pas des... Je suis dans le transfert de technologies. J'ai plein de technologies qui va servir à aider les populations. Il suffit de les acheter et on peut les produire localement. C'est-à-dire que je crée de l'emploi dans la santé, dans les avions et dans les pièces détachées et même dans les voitures électriques. Le Togo pourrait être le premier pays à fabriquer des bus électriques. Vous voyez ? Mais allez dire ça à des gens qui ne comprennent pas comment fonctionne l'économie. Ça, c'est pour la partie entrepreneuriat. Et donc, vous voyez aussi la priorité au niveau ministériel. Hein. Quelle est la priorité qu'on a donnée à l'entrepreneuriat, à l'entreprise, à l'industrie, au Togo? Sur la deuxième partie de votre question, répétez-la moi parce qu'il faut être précis.
Je disais, comment arriver à une conscience collective?
Voilà. La notion de conscience collective, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, elle commence par une introspection et je suis entièrement d'accord avec lui. Sauf que c'est pas tout le monde qui va le faire. Deux, elle ne peut pas se faire si vous avez faim et vous êtes dépendant. Donc vous avez vu, tout l'ancien système a créé les animations, vous allez danser, vous avez plus d'argent que celui qui travaille. Donc vous voyez bien qu'on peut toujours le mettre en cause. Donc il faut bien compter sur la personne. Mais il faut aussi l'ensemble de la masse qui bouge. D'où les intellectuels ne font pas leur travail. L'intellectuel togolais, une partie se lève et dit des choses. Une partie a trahi. Il faut dire la vérité. Une partie est peureuse. Elle a peur de son ombre. Et une troisième dit laissez faire. Une quatrième, pardon, dit laissez faire. Mais quand vous faites le compte n'y est pas. Parce que c'est 1 sur 4 qui essaie de faire bouger les choses. Et ça ne suffit pas. Donc, il faut arriver à faire prendre conscience à son voisin que ce qu'il fait de manière soit individuelle, soit fausse, ne peut pas aider l'ensemble. On ne peut pas être riche dans un océan de pauvreté. C'est très important ça. Pourtant, ce peuple togolais, s'il n'a pas péché contre Dieu, il a péché contre lui-même. Parce que c'est un peuple qui aime devenir riche de manière individuelle, mais en s'assurant que les autres n'avancent pas pour qu'on puisse lui donner des miettes. Et tout le système est basé là-dessus. Dès lors que tu me donnes des miettes, je peux accepter tes conditions. Je peux me bagarrer pour faire grossir la miette. Ce n'est pas ça l'économie. L'économie, c'est que le gâteau doit grossir. Il doit être plus gros encore. D'où l'importance des technologies pour qu'on grossisse, qu'on aille plus vite, qu'on fait de la productivité. Parce que si c'est plus gros, c'est plus facile à partager. Mais si c'est plus gros et qu'en même temps nous faisons 5, 10, 15 enfants, ben, ça ne change rien. Donc il faut aussi un comportement qui va avec. Attention, il y a un autre élément, la facilité. Ce n'est pas évident que ce soit facile. Et troisièmement, la trahison. On ne peut pas se réunir à trois et dès qu'on est sorti, l'un est parti raconter à gauche, l'autre la nuit et l'autre le matin de bonne heure et on vous attrape le quatrième jour. Ça aussi, il faut dire que le peuple togolais dans sa globalité est un peuple qui aime trahir. Parce que si c'est un peuple qui ne trahit pas son frère et sa sœur, mais jamais un régime aurait pu assister et diriger le peuple togolais sur 50 ans. Regardez le Bénin voisin. Heureusement, ils ont hérité des Béanzins. Est-ce qu'on a des Béanzins? Mais oui, on a des gens. On a des gens. Vous savez que la patronne, même quand on a dit qu'il a signé avec l'Allemand, fouillez bien dans l'histoire, demandez à nos historiens. Mais la papa n'a rien signé du tout. C'est les Allemands qui sont allés négocier, donner à manger à son petit frère là-bas, un petit voyou qui boit beaucoup d'alcool, qui a signé à sa place.
Dommage.
On dit que c'est la patronne qui a signé.
Ah,
la patronne était un ami de toutes les gens de Béanzin. Ce sont des grands patriotes.
Merci.
Donc il faut redonner la place à ces Togolais qui ont fait du Togo un grand pays. Un grand pays qui dépasse les petites choses que nous connaissons aujourd'hui.
La minute s'égrène.
Et je finis, c'est très important.
30 secondes.
Cette notion collective que nous disons, elle ne peut pas se faire sans la diaspora. Il faut demander. La diaspora, c'est pas seulement pour envoyer, demander de l'argent, acheter un petit Moulinex, envoie-moi l'argent pour le téléphone portable, etc. Non. C'est pour dire qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je peux faire pour grossir le gâteau. Pour réduire la charge de celui qui est à l'extérieur aussi. Parce que sinon, il ne peut pas investir ici et il peut perdre son emploi régulièrement. Maintenant, il y a une chance qui arrive. Vous savez que ce que vous avez dit, diviser pour régner, c'est ce que M. Trump est en train de faire avec l'Europe.
D'accord.
Vous voyez que le monde peut évoluer. M. Trump, l'Américain, veut diviser l'Europe. Mais vous savez que quand l'Europe est divisée, mais c'est intéressant pour l'Afrique. Donc, il faut regarder aussi de ce côté. Parce que ne croyez pas que le monde, il est statique. Au contraire, c'est dynamique. Et n'oubliez jamais, c'est écrit quelque part, les premiers seront les derniers. Il faut se rappeler cette règle-là aussi. Donc,
exactement.
Je conclue. Il faut retrouver des alliances. Ceux avec qui vous pouvez vous entendre, cherchez-les. Ils sont là.
D'accord.
Trouvez-les. Mmh. Ne les trahissez pas. Et vous allez avoir beaucoup de confiance et de soutien.
D'accord.
Plus on ne peut pas dire.
Merci. En tout cas, nous allons finir tout doucement cette émission et dans quelques minutes, ce sera la dernière question à soumettre au docteur Moussa Issifou depuis Caroline du Nord. Cette question, je l'avais déjà soumise au docteur Yves Amaïso. Alors, docteur Moussa Issifou, à l'occasion du sommet Afrique-France et qui s'est tenu cette semaine au Mali, un journaliste français a interviewé quelques chefs d'État africains sur leur longévité au pouvoir, notamment Faure Gnassingbé, sur les 50 ans de règne de la famille Gnassingbé et qui s'accroche toujours au pouvoir et justement contrairement à François Hollande qui est obligé de partir après 5 ans de gouvernance. Il a répondu, je ne vois pas le rapport. Alors, buzz total sur les réseaux sociaux et docteur Moussa Issifou, comment réagissez-vous à cette scène de la réponse de Faure Gnassingbé?
Je dirais tout simplement que je m'indigne par rapport à sa réponse. Mais seulement, je voudrais demander à M. Faure Gnassingbé, n'est-ce pas, de cesser de classer ou bien de réclamer que le Togo est une démocratie. Parce que la question qui avait été posée, c'était une question qui répond au principe démocratique. Et la réponse qu'il a donnée, une réponse qui n'a rien à voir avec la démocratie et dont, n'est-ce pas, qu'il parle.
parce que lui aussi, dès qu'on parle de démocratie, il essaie aussi, n'est-ce pas, de parler de démocratie, de dire que le Togo est un peu l'État qui est en démocratie. Alors la question, une simple question de démocratie est posée, et le gars, n'est-ce pas, s'exclut totalement de ses principes démocratiques. Il y a pas, je ne vois pas de rapport, je ne vois pas le rapport. Oui, parce que le Togo n'a rien à voir avec le monde, le Togo n'a rien à voir avec la démocratie, le Togo n'a rien à voir avec tout ce qui se passe autour, au Bénin, au Ghana et autres. Alors, je pense que fort serait mieux, n'est-ce pas, de dire simplement le Togo n'a rien à voir avec la démocratie, donc le Togo n'a pas de rapport avec la démocratie et c'est tout. Je pense que c'est ce qu'il aurait dit et alors personne ne serait choqué. C'est ça? C'est ça? Donc, nous sommes maintenant clairs. C'est pourquoi nous disons que la lutte ne fait que commencer. Nous avons maintenant su toutes les intentions inavouées de ceux-là qui nous dirigent. Nous connaissons désormais tout ce qu'ils, n'est-ce pas, ont comme caché dans leur tête. Donc, nous devons nous munir de moyens nécessaires. Et ces moyens-là, comme on l'a déjà dit, passent par conscience collective-là, et qui devait passer par celle individuelle, et on pourra, dans l'union, n'est-ce pas, faire en sorte qu'on puisse prendre de nouveaux, comment l'appelle-t-on, de nouveaux pactes, s'il le faut, afin de relancer notre société.
Merci.
Parce que la société togolaise a besoin d'un nouveau pacte.
C'est
parce
clair.
Que les pactes passés ont été trahis, il va falloir renouveler et les relancer et faire en sorte que une nouvelle classe politique, une nouvelle société digne de ce nom naisse afin de pouvoir, n'est-ce pas, nous tirer de la situation
Merci.
Dans laquelle nous nous trouvons.
Merci. Ouais, ouais. On va conclure cette émission avec Dr. Yves Kouya Maïso. Vous avez une minute pour conclure cette émission justement sur l'actualité sociopolitique au Togo. Une minute, Dr. Yves Kouya Maïso.
Écoutez, une minute est toujours une opération difficile, mais je crois que je suis très heureux de constater une prise de conscience collective, qu'on le veut ou non, que ce soit sur le sujet du franc CFA, sur le fait que même au niveau institutionnel, la CDAO a réussi finalement à faire partir des gens qui ne veulent pas partir, et que vous ne croyez pas que ce qui se passe en Gambie ne va pas se passer au Togo. C'est une question de temps. Je vous le rappelle encore une fois, vaut mieux que ces gens démissionnent. Et ce sera le vrai mot de la fin. Parce que si Yahya Jammeh ou Fonia Singbe avait démissionné, il n'y a pas de problème. Si c'est pour ces petits militaires, on va leur trouver à manger. Le Togo est grand, on va leur donner à manger. Mais qu'ils ne restent pas trop longtemps. Parce que le problème, plus ils vont rester, plus l'énervement augmente. Et quand ça augmente, il y a toujours des accidents. Il faut être content que rien de grave ne s'est passé en Gambie. Pas d'effusion de sang,
Merci.
Comme ça s'est passé au Togo en 2005, 2010, 2015. Mais il faut souhaiter que vraiment un esprit sain, là, un esprit propre, un esprit purifié vienne le toucher et qu'il se lève un bon matin
D'accord.
et qu'il dise qu'il va aller au Qatar, au Maroc, là où il veut, on va
Merci.
Préparer Akoumé, on va préparer Tchatchanga, on va lui amener en main propre.
Merci.
Sinon, vous voyez bien que ce qui est en train de se manifester peut devenir de la haine.
D'accord.
Au sein même des militaires qu'ils croient le soutenir.
Merci.
Si vous savez comment les militants ont lâché Yahya Jammeh, il faudrait que Fort s'en inspire.
D'accord. Merci. C'est le mot est fort. Hein. Il faut que Fort s'en inspire de ce qui vient de se passer avec Yahya Jammeh en Gambie. Et bien justement, merci également Dr Moussa Issifou, professeur des sciences humaines et de critique littéraire à l'Université d'État de Caroline du Nord. Merci et bonsoir.
Merci à vous.
Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et vous pouvez également suivre Fenêtre sur l'Afrique en continuité sur notre radio partenaire Ebene Radio tout à l'heure dans quelques minutes. L'interview exclusive réalisée par notre correspondant Rodrigue Ayego avec le coordinateur du mouvement Alaga, Dr Ekwe Gada depuis Lomé. Vous allez également suivre notre rubrique et Djoa Bigbe. Justement, ce serait dans quelques minutes sur notre radio partenaire Ebene Radio. Et pour finir en toute douceur cette émission avec vous, retenez encore cette citation d'un grand homme, feu Thomas Sankara, qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des allusions sur sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Bonsoir.
Comment voulu-tu